Ici et maintenant, 95.2, Didier Deplège avec vous pour représenter cette soirée. Un moment apparemment très attendu. Vous êtes nombreux sur le net également à suivre cette émission annoncée sur plusieurs listes spécialisées dans le domaine sur Internet, annoncée à plusieurs reprises sur cette antenne. Nous profitons de la visite à Paris de Jean-Paul Lyon. Et nous allons découvrir de visu André-Jacques Holbeck. Tous les deux sont intervenus depuis le mois d'août dernier à deux reprises dans des émissions auxquelles participait Jean-Pierre Petit. Et il va être question soit d'un complot de terriens pour berner d'autres terriens, soit d'une incroyable vérité. Jean-Paul Lyon lui-même en est persuadé. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il nous en apporte la preuve après 7 ans de travail acharné, beaucoup de sacrifices et de recherches extrêmement poussées, extrêmement sérieuses. Donc je propose à André-Jacques Holbeck, qui le connaît bien, de s'entretenir avec Jean-Paul Lyon dans une certaine progression sur laquelle il a travaillé afin que chacun puisse bien comprendre l'enjeu. Quand je faisais allusion à un complot mondial, ceci sera démenti, balayé en quelques minutes, l'idée que un groupe de terriens dépendant d'une agence gouvernementale de droite, de gauche, verte ou jaune ou bleue ou rouge, ait décidé de berner une poignée d'Espagnols, une trentaine d'Espagnols, en montant un énorme canular. C'est évidemment la défense de ceux qui n'ont pas étudié le dossier et qui par avance se font fort de dire que Humo n'est qu'un mythe, que cette planète, si elle existe, n'est pas habitée, que des agences ont voulu simplement désinformer en faisant appel à des architectes pour ce qui est de l'architecture personnelle, familiale, domestique des habitants de la planète Humo, d'autres des ingénieurs en propulsion pour décrire de pseudo-vaisseaux, et puis des linguistes pour monter tout un langage. Alors, André-Jacques Holbeck, j'imagine que ça, vous l'avez souvent entendu. Je vous présente ce soir, et puis vous en faites votre affaire.
Bon, eh bien, alors on va essayer. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir sur Ici et Maintenant. Puisque le débat a été directement lancé par Didier en ce qui concerne la crédibilité de cette affaire. On peut, je pense, en parler immédiatement. Ce que je peux dire, moi, et après je passerai tout de suite la parole à Jean-Paul Lyon, ce que je peux dire, moi, c'est que l'histoire du canular, déjà, me semble pouvoir être éliminée, parce que ces lettres dont on va parler, qui représentent les pages dont nous avons connaissance, représentent plus de 1400 pages. Elles ont été distribuées à 34 Espagnols. Pour les construire, il a fallu construire un langage, il a fallu construire une cosmologie, il a fallu construire une religion, il a fallu construire toute une série d'informations concernant le mode de vie, et j'en oublie. Faire un canular de cette taille, de cette envergure au niveau de l'information sous-entend le travail de plusieurs personnes, de plusieurs, comme le disait Didier, de plusieurs ingénieurs ou scientifiques qui ont monté tout un système, qui ont travaillé donc depuis les premières lettres qui nous sont parvenues sont des années 66-67. Les dernières datent de 94 et on en parlera après. Même maintenant, paraît-il, 96. Donc pendant plus de 30 ans, des gens ont diffusé des lettres. Ils les ont diffusées à un groupe extrêmement réduit de 34 Espagnols. Ces gens qui avaient certainement des connaissances importantes au niveau de la physique, au niveau de la biologie aussi, ont dû travailler en groupe. Ils devaient avoir à l'époque peut-être, allez, disons 30 ans, ils en ont maintenant 60. Et ce canular, il n'y en a aucun de ce groupe qui n'a jamais dit « Bon, allez, ça y est, on s'est bien amusé, on vous a mis en boîte, maintenant on va vous dire ce qu'il en est ». Vous verrez que, enfin les auditeurs verront, entendront plutôt que ce dossier est beaucoup plus sérieux que de la manière dont il a été traité par les médias, par des ufologues, par les scientifiques bien évidemment, à part, disons, quelques-uns, dont bien sûr Jean-Pierre Petit, qui est sur tous les coups, où il y a quelque chose à découvrir, où on sort un tout petit peu de la, disons, du scientifiquement correct. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à Jean de bien vouloir nous raconter un petit peu l'historique de cette affaire. Je pourrais le faire, mais je pense que, disons que son livre est extrêmement documenté et il a plus de connaissances que moi sur tout ce sujet, en fait, parce qu'il y a travaillé énormément.
Oui, c'est vrai, André-Jacques. Cela dit, bonjour, d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, on peut rapidement déjà esquisser la différence qu'il peut y avoir entre l'histoire de la réception des documents et l'histoire humide que ces documents racontent. En fait, ce sont donc des lettres qui ont été reçues en espagnol par des Espagnols et ils les ont reçues pendant un peu plus de 30 ans. Et ces documents racontent d'une part, la vie sur la planète, bien sûr, les connaissances cosmologiques avec toute une théorie sur la structure de l'univers, des connaissances métaphysiques avec un certain parallèle religieux avec la religion catholique sur la Terre. Mais ces documents racontent aussi l'histoire des humites sur la Terre. Donc, il faut bien qu'on fasse la différence. Alors, on va peut-être rapidement parler de la façon dont ces documents ont été distribués en Espagne. D'après le contenu même des documents, les humides cherchaient une cible chez des gens qui s'intéressaient au phénomène extraterrestre, ou au moins à la réflexion sur le phénomène. Et donc, ils ont sélectionné en Espagne le club de Fernando Sesma, qui s'appelait le club de la baleine joyeuse, parce qu'il y avait sur le mur, c'est dans un sous-sol à Madrid, le sous-sol d'un café, il y avait une baleine qui était peinte sur le mur et qui avait l'air vraiment, allez, on va le dire, rigolarde. Et donc, ça s'est appelé la baleine joyeuse. Ce club, Fernando Sesma, racontait des histoires d'extraterrestres, d'ésotérisme, de symbolique, de choses qui faisaient venir une trentaine de personnes tous les mardis à ces tertulias, comme disent les Espagnols, qui sont des causeries un petit peu, mais tout le monde pouvait parler, enfin voilà. Et donc, il a commencé à recevoir un coup de téléphone, on lui a dit... Un humite lui a dit au téléphone, je viens d'ailleurs, je viens d'une autre planète, est-ce que vous voulez vous intéresser à nous ? Je passe sur les détails. Ils sont venus lui le voir pour lui montrer soit des photos en relief, un petit peu comme les hologrammes qu'on sait faire aujourd'hui. Et puis, ils ont commencé à envoyer des lettres à ce monsieur Sesma et à ce club. Et pendant un an et demi, il a été arrosé de documents avec des rapports assez épais, beaucoup de pages. Malheureusement, monsieur Sesma n'était pas très très rangé et il a certainement égaré quelques pages importantes. Parallèlement à ça, certains des adhérents du club, enfin des gens qui venaient, ont reçu des lettres eux aussi, et petit à petit, Sesma s'est désintéressé de ce sujet-là, il préférait les planètes avec des papillons, pas les planètes dans lesquelles il y avait des équations et des choses compliquées. Oui, parce que le contenu des lettres n'est pas un contenu facile à lire, on en reparlera après. Mais il y a un mélange de mathématiques, de physique, tout ça, il y en a un petit peu partout, et c'est pas toujours très très facile, et ça fatigue facilement. Alors, les lettres ont continué à arriver, et je vais citer tout de suite ce qui s'est passé. Le premier contact par téléphone était le 14 janvier 1966, Et le 6 février 1966 a eu lieu une observation d'OVNI de très très près, puisque un monsieur dont on va reparler, Luis Jordan Peña, a été le témoin privilégié de la descente et de la remontée de l'OVNI sans pourtant le voir au sol. Hein. Le temps, il a voulu se rapprocher en voiture, et le temps qu'il arrive en voiture, l'OVNI avait redécollé. Mais l'essentiel, c'est que cet endroit où il y a eu cette observation s'appelle Aluche, et on en reparlera un petit peu. Aluche, c'est un témoignage, celui de Peña, et c'est le témoignage de deux autres personnes, Maria Ruiz Torres et le berger Juan Jiménez. C'est dans une banlieue qui était très peu construite, il y avait des immeubles, mais d'énormes champs entre les immeubles. Ces deux témoignages sont complètement oubliés aujourd'hui par le monde ufologique. Le monde ufologique ne pense plus qu'au témoignage de Peña et d'un quatrième homme, Vicente Ortuño, qui a témoigné 2 ans plus tard. L'essentiel, c'est qu'à Aluche, l'engin qui s'est posé a laissé des traces au sol, des empreintes en creux. Ces empreintes en creux ont été photographiées, ont fait l'objet de, pas de mesures directes, mais d'évaluations et d'un dessin équivalent. Sur la base des informations fournies, j'ai pu calculer que le trou de chaque empreinte correspondait à une pression de 14 tonnes. C'est-à-dire que l'ensemble des 3 empreintes représente 42 tonnes, si je suis capable de calculer de tête, et donc hors de possibilité de fabrication d'un trucage. Pour moi, il s'agissait de les faire. Ces empreintes ont été découvertes le lendemain matin. Hein. La vision a eu lieu à 20h à peu près, je crois que c'est 20h02 qu'ils disent, mais les empreintes au sol donc ont été faites tout de suite et découvertes le lendemain matin. Et donc si quelqu'un un jour a voulu truquer ça, si on prétend qu'on a voulu le truquer, il a fallu faire ces trous avec je ne sais quoi pour faire des trous de 14 tonnes représentant une telle pression. Donc ça c'est Aluche. Les documents ont continué à arriver et ça c'était donc en 66 et en 67, au mois de mai 67, le club de la Baleine Joyeuse a reçu une lettre qui faisait déjà succession à d'autres, dans laquelle les Humites annonçaient un atterrissage dans la région avec une fourchette de dates et d'heures, bien sûr, parce que bon, ils expliquent d'ailleurs pourquoi ils peuvent pas être plus précis, annonçant donc cet atterrissage entre le 31 mai plutôt, et le 3 juin, en disant que ce serait plutôt dans le début que dans la fin de la période. L'endroit a été donné avec des coordonnées géographiques très précises, mais accompagné d'un cercle d'incertitude qui représente plus de 400 km² ou 500 km². Enfin, c'est donc, il fallait pas se leurrer sur la possibilité de le voir en étant à l'endroit prévu. Ce qui compte, c'est que l'apparition de l'OVNI a bien eu lieu et des gens l'ont vu et surtout, il a été pris en photo.
Alors c'est l'histoire de photo, il faut quand même signaler que c'est extrêmement bizarre, puisque, Jean m'arrêtera si je me trompe, mais dès le lendemain matin, un journal local, là c'est une formesse je crois,
Informationesse,
est prévenu que des photos sont déposées chez un photographe, et donc ces photos paraîtront dans le journal du soir. Il y a, je crois, 5 photos, Jean, c'est ça?
Oui, c'est ça, je crois. Oui, il me semble que c'est 5 photos. Mais de toute façon, bon, 4 ou 6 n'a pas une grosse importance. Ces photos faisaient partie d'un film de 24 poses, je crois. Mais on a les numéros sur les négatifs et on sait que ce ne sont pas des photos qui sont en séquence. Ce qu'il faut retenir de ces photos, c'est qu'elles ont permis à un architecte, sur la base des photos et du paysage, bien sûr, qui est pris, parce que l'engin n'est pas centré dans la photo, il est plutôt sur le côté et vers le haut à chaque photo, ça a permis de reconstituer complètement la trajectoire de l'engin pendant les 12 minutes pendant lesquelles il est resté en l'air. 12 minutes à 30 mètres d'altitude, donc avec une vision, un engin qui faisait apparemment dans les 12 ou 13 mètres de diamètre. Donc c'est impressionnant, parce que le soleil à côté, c'est une petite route vélo. Hein. Donc c'est des très belles photos, évidemment, la question s'est posée tout de suite, sont-ce des vrais ou sont-ce des trucages ? Alors bon, on en reparlera un petit peu après, mais elles ont fait l'objet d'analyses techniques par d'abord Claude Poher en France et qui a publié le résultat de ces analyses en 1976. Il faut bien dire que les photos datent de 67, mais en 1967, aucune technologie et en particulier les ordinateurs, mais surtout les engins pour scanner. Aucune technologie ne permettait d'analyser une image avec une finesse suffisante pour espérer en tirer quelque chose. Et donc ces photos sont restées tranquillement, elles ont fait l'objet d'examens visuels par des météorologues qui ont comparé la trajectoire au sens du vent, des nuages, des choses comme ça. Je pense à un Espagnol, s'appelle Oscar Rebrea, qui a fait une analyse là-dessus. Et elles n'ont été techniquement étudiées, ces photos, que par Claude Poher en France, dans la période de 73-74 à peu près. En tous les cas, il a publié le résultat de ses conclusions en 1976 dans une revue américaine et une revue belge de la SOBEPS, l'Inforespace.
Oui, alors ces photos ont été réétudiées en 2000 par les Espagnols.
Oui, c'est Benitez, l'écrivain espagnol, hein, Juan José Benitez, qui a commandé à la Guardia Civil espagnole une étude par les services de la police espagnole pour une étude de qualité des photos. Et cette étude est sortie en l'an 2000, concluant qu'il n'y avait aucune trace d'aucun artefact décelable sur ces photos. Donc, comme d'habitude, on ne peut pas dire qu'elles sont vraies, mais on est certain qu'apparemment elles ne sont pas fausses.
Donc dans cette affaire, on a déjà deux témoignages forts en ce qui concerne le passage de leur nef sur la Terre. On a bien évidemment les lettres, qui va être particulièrement le sujet de la discussion de ce soir. Et puis après, on a les informations que nous donnent les humides dans ces lettres, de leur arrivée sur Terre, d'abord d'un premier passage au-dessus de la Terre, ensuite leur arrivée sur Terre. Alors, je vais me permettre de raconter l'histoire, en fait. Le 28 mars 50, le 28 mars 50, ils reçoivent un message en morse. Un message qu'après ils apprennent être du morse.
Oui, mais je te reprends, c'est pas le 28 mars 50, c'est en 1900.
Ah, c'est deux ans avant.
C'est en 1949.
48.
Hein, c'est ça.
Deux ans avant le 28 mars 50. Pardon. Cette émission dure 6 minutes 38 très exactement, disent-ils, et ils découvrent que c'est un code terrestre morse. Il s'agit...
Binaire,
des cours. Absolument. Donc ils disent dans des lettres, nous avons su par la suite, qu'il s'agissait du code terrestre morse. Ils reçoivent ce message, ils essayent de le décoder et ils s'aperçoivent que ça vient d'une planète, d'un système qui est en fait le système solaire. Donc ils décident d'envoyer une mission de reconnaissance vers le système solaire.
Ah, il y a une chose intéressante dans cette histoire et qu'on va rapprocher des planètes actuellement que nous découvrons autour de certains systèmes, les premières planètes, enfin exosolaires, hein, qu'on trouve ailleurs, c'est que les humites expliquent qu'ils n'avaient pas fait très attention à notre système, le Soleil, qu'ils connaissaient, parce qu'ils le créditaient de 4 grosses planètes. 3 pour les avoir détectés, c'est-à-dire Saturne, Neptune et Jupiter. Mais la 4e grosse planète, elle était supputée par les altérations de l'orbite du Soleil et des autres planètes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont arrivés, ils ont envoyé une mission d'étude, parce que manifestement les signaux étaient intelligents, et donc la mission d'étude est arrivée, et en arrivant à l'entrée du système solaire, ils ont découvert que la grosse planète qu'il croyait quatrième, c'était en fait trois planètes telluriques, c'est-à-dire c'était Vénus, Terre et Mars, et que c'était l'ensemble des trois qui, à elles trois, représentaient quelque chose qui perturbait les orbites des autres. Et naturellement, ils ont découvert que c'était la Terre qui faisait beaucoup de signaux radioélectriques, et puis la seule qui en faisait, donc c'était autour de la Terre qu'ils ont fait. Alors, très curieusement, hein, bon, le voyage, on va en parler rapidement, le voyage, ils annoncent des durées de voyage de 6 mois pour une distance de 14,4 années-lumière. Attention, ça, il y a beaucoup de scientifiques qui vont tout de suite grimper aux arbres, on va en parler après. Ils annoncent une durée de voyage de 6 mois, et au bout de ces 6 mois, ils ont fait 3 orbites autour de la Terre, pas plus. Le temps d'analyser l'atmosphère, de prendre énormément de mesures, d'enregistrer énormément de choses, et en particulier de filmer à quelque chose comme 5000 mètres d'altitude les environs de Montreux en Suisse, et ils sont repartis aussitôt. Si bien que les données en fait concernant le système solaire ont été disponibles un petit peu moins d'un an après la réception des signaux en provenance de la Terre. Et ils ont tout de suite, après avoir exploité ces enregistrements, ils ont décidé d'envoyer réellement cette fois-ci un corps expéditionnaire, lequel est arrivé sur Terre, toujours d'après les documents, en France, à l'Ajavi. Alors ils avaient loupé la Suisse de quelques 200 kilomètres, puisque c'était a priori la zone qui les avait intéressés, parce qu'elle est montagneuse, et qu'elle est relativement, disons, peu peuplée, hein, comme c'est montagneux, les agglomérations sont quand même très centrées au fond des vallées, et ça, bon, c'était assez intéressant pour eux de se placer dans une zone comme celle-là, et donc ils sont arrivés sur l'Ajavi. Et puis, ensuite, ils sont restés 2 ans autour de l'Ajavi, le temps d'apprendre le français, la langue, les coutumes, découvrir les habitudes des terrestres, et puis découvrir surtout que les terrestres ne se connaissaient pas entre eux ou trop mal pour identifier vraiment un intrus, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui n'était pas de notre planète.
Oui, alors je te reprends un peu la parole, parce qu'il faut que tu souffles. Donc, ils arrivent près de la Terre. Alors, effectivement, ils restent 2 ans, semble-t-il, en France. Ils signalent d'ailleurs qu'ils travaillent à Paris, dans des bibliothèques parisiennes, pour apprendre notre physique, notre cosmologie, tout ça. Et ensuite, ils vont descendre en Espagne. Alors, c'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi l'Espagne, surtout du temps de Franco ? Pourquoi n'être pas resté en France ? Est-ce que tu as une réponse à cette interrogation ?
J'ai un avis, mais c'est un avis dérivé directement du contenu des lettres. En fait, ils expliquent dans une lettre qu'ils ont choisi l'Espagne parce que l'Espagne était facile de pénétration. Il faut se rappeler que à cette époque-là, l'Espagne était quand même un pays qui n'était pas encore sous un développement économique valeureux, et que une de ses grandes richesses, à côté, l'agriculture est difficile en Espagne parce que c'est des grands plateaux qui sont très arides, et sauf la côte est qui à l'époque n'avait pas encore développé le commerce européen des primeurs et des fruits, était donc essentiellement de financement touristique, et pour faire rentrer des devises fortes des autres pays, les Espagnols n'étaient pas très regardants sur les personnalités et qui venaient en Espagne, surtout en villégiature. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'aller en Espagne, en cherchant à s'installer sous une couverture de type médical. Ils avaient pensé se mettre vétérinaire parce qu'ils avaient besoin de faire des expériences sur les animaux terrestres, et donc de voir un petit peu comment ça réagissait par rapport aux leurs, et sur des virus et des tas de choses. Et donc ils ont pensé se mettre vétérinaire, mais il y avait trop de fréquentation de clientèle avec les terriens, et donc ils ont pensé aussi d'autres choses, et finalement ils ont arrêté leur dévolu sur une personne qui avait un comportement un petit peu on va dire chaotique, une grande personnalité espagnole, mais qui avait un comportement un peu chaotique et qui elle-même avait une espèce de petit zoo, enfin qui élevait beaucoup d'animaux et qui s'intéressait aux animaux. Ils l'ont convaincu en se présentant comme des vétérinaires danois. Ils l'ont convaincu de se faire héberger pour soigner ses animaux et faire des recherches sur ses propres animaux.
Oui, à partir de là, il y a eu d'ailleurs une histoire qui est relatée dans plusieurs lettres et qui en elle-même fait rejeter la thèse du montage, parce que ils se représentent dans ces lettres en racontant l'histoire. C'est l'histoire de la main coupée, c'est l'affaire de la main coupée. Ils font une bêtise. Manifestement, ou bien ils ferment mal la porte de leur laboratoire, ou bien la porte est forcée, mais le détail n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'un virus, sur lequel ils étaient en train de travailler, se diffuse. Et
un virus humide, hein, un virus importé. Hein.
Importé. Et bon, bah, donc tu connais mieux l'affaire que moi. Et raconte cette histoire de virus quand même. C'est important parce que ça détermine le fait que quelqu'un qui aurait monté toute cette affaire pour, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais enfin disons, si des terriens avaient monté toute cette affaire, on ne voit pas l'intérêt d'inclure dans les informations qu'ils auraient données cette histoire où ils ont quand même pas le très beau rôle.
Oui, tout à fait. Bien que j'ai en main des documents dont tu n'as pas encore connaissance et qui donnent un éclairage intéressant sur cette histoire. Bon, rien que par exemple l'histoire de la clé. Comment est arrivé cet accident? Finalement, ce virus est sorti du labo dans lequel il travaillait. C'était un labo dans un sous-sol. Hein, c'était quand même assez rudimentaire. Ils avaient obtenu de cette personne qui s'appelait la marquise Ruiz de Liori. Ils avaient obtenu de cette personne de faire fermer la porte avec des verrous. Et ils n'ont pas obtenu d'aller chercher eux-mêmes les clés des verrous, et c'est la femme de chambre qui est allée s'occuper des clés. Et elle a fait faire un double pour elle. Donc c'est comme ça qu'en fait la porte n'a pas été fracturée, mais elle a été ouverte par quelqu'un qui avait un double des clés. Et cette personne, elle, a fait attention, n'a pas fait de mal, elle a visité et puis elle n'a rien dit. Mais elle a donné la clé à la fille de la marquise qui, elle, a, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas le détail là, elle a attrapé le virus. Et donc, ça on l'a su un peu plus tard, mais ce virus s'est développé et il présentait un danger. Quand les émites s'en sont aperçus, le virus était déjà trop implanté chez la fille et chez d'autres personnes qui l'avaient fréquenté pour qu'ils puissent les traiter à distance. Parce qu'ils savent, on va dire, tuer des virus et aseptiser à distance, mais dans certaines limites. Par exemple, ils disent, à 70 mètres, on sait encore tuer un virus, mais à condition qu'il soit pas trop profondément inclus dans l'organisme. S'il est trop profond, on n'a pas les moyens de pénétrer assez profond à ces distances-là. Le résultat, c'est que la fille de la marquise était gravement atteinte et ils ont découvert en même temps que cette jeune femme était aussi porteuse d'une leucémie qui la condamnait irrémédiablement, puisqu'à cette époque-là, on ne savait pas faire de traitement de ce type de leucémie. Et ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on essaye de la soigner du virus, mais à ce moment-là, on va être obligé de se découvrir quand même? Ou bien, compte tenu de sa leucémie, est-ce qu'on laisse faire en contrôlant simplement la diffusion du virus? C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Et ils ont donc attendu le décès de cette jeune femme qui est intervenue au bout d'un an à peu près. Simplement, peut-être même moins d'un an. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce virus avait des caractéristiques, et en particulier devenait beaucoup plus virulent dans les heures qui suivaient la mort de l'hôte, c'est-à-dire de l'organisme hôte. Et ça, ils l'ont découvert que c'était une caractéristique qui ne se passait pas chez eux. C'est quelque chose qui s'est passé à la rencontre d'un virus humide sur un corps terrien. Et à partir de là, ils ont donc décidé de prélever sur le cadavre, juste au moment de la mise sous cercueil, la mise en bière, ils ont prélevé sur le cadavre la main un œil et la langue, parce que ces trois zones étaient infectées par le virus. Le fils de la marquise s'est aperçu de quelque chose, a demandé une autopsie, une exhumation, et le constat de l'amputation a été fait. Ça a valu à la marquise d'être mise en prison momentanément avec son ami et bon, beaucoup de complications, et les humites expliquent qu'ils étaient quand même très désolés de cette situation sans qu'ils n'aient rien pu faire sauf d'empêcher la dissémination du virus, puisque c'était leur but essentiel, sauvegarder la santé et rattraper la bêtise qui avait été faite indirectement de leur fait, mais ils ont reconnu qu'ils avaient été un peu légers dans l'histoire des clés.
Voilà. Bon, je pense qu'on va, on peut peut-être arrêter en ce qui concerne les anecdotes concernant les humites. Il y a des choses plus intéressantes, plus intéressantes, parce qu'à partir d'un certain moment, donc ça c'était un peu plus tard, à partir de 1966, commence la diffusion des lettres. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ont-ils commencé à écrire des lettres à SESMA? On en a parlé très rapidement tout à l'heure à propos du groupe de SESMA, mais quelle a été leur motivation de l'envoi de ces lettres à des groupes de terriens?
Bon, c'est, la réponse est encore dans les lettres. En fait, ils disent... Nous avons découvert l'existence de la Terre et du système solaire, vraiment, nous l'avons découverte en 1950, et en arrivant sur Terre, on a découvert une richesse que nous n'avons pas. Nous sommes un peuple plus vieux que vous, plus ancien dans l'histoire de sa planète. C'est donc normal que nous ayons des connaissances plus grandes, en particulier en matière scientifique ou métaphysique. Mais en matière artistique, nous sommes battus à plate couture par vous. Vos peintures, vos dessins, vos musiques, vos sculptures sont des choses qui nous fascinent. Et nous, ça, on sait pas faire. Et donc, on a pris chez vous la copie d'une quantité de trésors artistiques. Il cite quelques choses. Et cette copie, eh bien, ça mérite quelque chose en retour. Alors, ce qu'on vous donne, ces documents sont faits pour vous donner de l'information sur nous. Nous avons pris de l'information sur vous en prenant la copie de vos œuvres d'art, et donc nous vous mettons à disposition de l'information. Mais il fallait que cette information ne soit pas choquante, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déclenche pas une panique du genre les extraterrestres viennent de nous expliquer que. Donc, ces documents contiennent à la fois des informations de crédibilisation et des informations de moindre crédibilisation. En tous les cas, ils sont difficiles à lire.
Voilà. Alors, donc, en fait, c'était d'une part, ils payaient leurs dettes, d'une certaine manière, mais d'autre part, en même temps, c'était pour eux une expérience très intéressante de voir comment ces lettres seront diffusées par la suite, y compris jusque maintenant, en fait.
Ah oui, alors bon, on va le dire tout de suite. Les derniers documents dont j'ai connaissance sont des lettres qui ont été reçues par Raphaël Fariols. En 1996, au cours de l'été 1996, il a reçu une lettre le 15 juillet, lui proposant de remettre en marche le réseau madrilène, mais avec une liste de noms a priori limitée. Et il lui donnait comme durée de contact des autres, en disant, bon, ben, de toute façon, fin août, donc c'était le 15 juillet, il lui a dit, fin août, on vous demandera de nous dire le résultat de vos investigations. On vous prévient que vous êtes de toute façon tous sous contrôle, observation, hein, de notre part, disent les humites, vous êtes tous sous contrôle, mais on écoutera les conversations téléphoniques, exclusivement celles concernant Humo entre vous. Et vous nous direz le résultat de votre reconstitution du groupe au mois d'août. Alors, on a un petit détail de Fariols à ce niveau-là qui est quand même intéressant. C'est que Fariols, il a toujours répondu aux questions des humites à haute voix dans son bureau. On lui disait, vous avez qu'à parler dans votre bureau, on se débrouille du reste, vous nous parlez à haute voix. Et là, il a dit, bah tiens, je vais faire un essai. Et il a bredouillé. C'est-à-dire qu'il a bredouillé sans prononcer vraiment et en parlant doucement. Et la lettre qu'il a reçue le 28 août lui disait... Donc, le 28 août, il a reçu une lettre dans laquelle les humites lui disent « Bon, on a observé un petit peu tout. Il faut que vous nous confirmiez votre accord verbalement dans votre bureau, votre accord pour relancer le réseau. Mais de toute façon, faites-le avec plus que de 17 décibels de volume parce que sans ça, on n'arrive pas à attraper ce que vous dites. » C'est quand même intéressant sur la directivité ou le lien technique qu'il pouvait y avoir entre Fariols et ses correspondants, puisque finalement il les a jamais vus, mais en fait il leur a parlé.
Messieurs, on marque une très courte pause et on se retrouve donc sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 avec André-Jacques Holbeck qui s'entretient pour vous avec Jean-Paul Lion. Tout le monde aura reconnu John Williams, la musique du film Rencontre du troisième type. Nous retrouvons donc André-Jacques Holbeck. On n'a pas dit qu'il est ancien pilote de Concorde, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute dans les chapitres précédents en août et septembre dernier, et qui s'intéresse à cette affaire depuis lui aussi des années, qu'il est également le responsable d'un site internet Sapiens.
Non, alors le site internet qui a trait à HUMO s'appelle... humo.free.fr.
Ah oui, mais je parle.
Et j'ai un autre site internet, effectivement, qui est plus généraliste, qui s'appelle sapiensweb.free.fr.
Très bien. Tant qu'on est sur le web, le chatroom d'ici et maintenant, c'est icietmaintenant.com. Chatroom, l'invité du jour. André-Jacques Holbeck, Jean-Paul Lion, la suite, s'il vous plaît.
Bien, donc on a vu un petit peu quelques détails concernant cette affaire HUMO. Je pense que maintenant on pourrait rentrer un peu plus dans ce que nous disent les lettres. Quels sont les grands traits que tu as remarqués dans ce un peu plus de milliers de pages, donc c'est difficile à dire parce que je n'ai pas les originaux, donc toi tu les as, enfin t'as des photocopies,
du moins. Oui, puis bon, mais bon, disons entre aux environs de 1200-1300 pages, en tous les cas, ce sont des pages tellement dactylographiées serrées que les copies qui ont été mises en circulation par Aguirre sont des copies où on a un coefficient 3/4, c'est-à-dire que là où une page normale, une page d'original donne lieu à une page et un tiers chez Aguirre. Hein, donc le coefficient est quand même assez large. Mais bon, on a des bons volumes. Alors là-dedans, les grands sujets qui sont traités sont des sujets concernant, en biologie, la structure de l'ADN et quelques innovations comme la présence d'atomes de krypton nécessaires au fonctionnement de l'ADN. Chose que personne n'a jamais mis en évidence, bien sûr. En biologie, c'est surtout ça. Et puis alors, en métaphysique, énormément de choses. L'existence, enfin, de justification à nos comportements collectifs par l'existence d'un esprit collectif qui fait de l'homme, dans cette théorie, qui fait de l'homme un outil de collecte d'informations pour l'esprit collectif de sa planète. Une des raisons pour lesquelles les humites sont venus sur Terre, ils l'ont donné, c'est de regarder s'il y avait un cloisonnement complet entre les planètes ou s'il y avait des communications entre les esprits collectifs des planètes. Ils ne nous ont pas donné la réponse à cette question. Il y a aussi des considérations physique théorique sur une approche de modèle de l'univers, qui sont des prolongements très très poussés, hélas hors de contrôle possible dans l'état actuel de notre technologie, mais des prolongements de la théorie de la relativité d'Einstein, avec laquelle ils sont tout à fait d'accord. Ils ont même cité qu'ils avaient découvert dans les travaux d'Einstein quelque chose qu'ils n'avaient pas noté eux. Et puis, des informations, bien sûr, sur la vie sur la planète, sur leur façon de vivre, et on en parlera après, bien sûr, des indications sur leur langue, et des indications qui ont été très, très riches de retombées informatives hein, de leur langue.
Oui, alors la langue fera l'objet d'une longue partie de cette émission, parce que c'est... ta grande découverte, la langue humite, un certain nombre de linguistes s'étaient déjà penchés sur cette question depuis fort longtemps, aussi bien en Espagne qu'en France, qu'en Belgique ou ailleurs. Mais la seule chose, c'est qu'ils étaient tous arrivés à des idées que ça pouvait éventuellement être certains langages terrestres qui étaient un peu tournicotés dans tous les sens, que c'est-à-dire qu'ils avaient tous analysé le langage humite en fonction des règles de fabrication de tous les langages terrestres. Et donc ta découverte, c'est justement que ça n'est pas ça du tout.
Oui, alors ben on va peut-être développer un petit peu plus tout à l'heure. Il y a deux choses. Oui, c'est vrai que c'est l'approche. Ce qui m'a permis de trouver, c'est une approche complètement innovante qui sortait de ce qu'ont fait tous les prédécesseurs. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur ces textes qui sont d'un abord pas très facile. Bien sûr, c'est écrit en espagnol, mais c'est pas ça la difficulté. Après tout, on arrive toujours à traduire. Mais ces documents, le style de l'espagnol est un style où on sent une logique différente de la nôtre d'expression. Il y a souvent un petit peu des redondances, des choses qui nous étonnent dans la formulation. Et ce qui les rend un peu pénibles à la lecture, ce qui fait que quelqu'un qui a envie de se faire une idée rapidement abandonne très vite. D'autre part, ces documents sont aussi des documents à lecture double possible, c'est-à-dire on les lit rapidement et on en sort saturé par des... On ne retient que quelques bêtises de premier niveau. Ou bien on les lit en les approfondissant, en se posant à chaque phrase la question pourquoi ça a été formulé comme ça et pas autrement. Et à ce moment-là, on accède à une autre information. J'ajoute que... bien des informations scientifiques ne sont disponibles que quand on croise des documents, c'est-à-dire que l'information n'est pas disponible dans une lettre, mais qu'en recoupant les données d'une lettre avec les données d'une autre, on aboutit vraiment à l'information. Alors tout ça, c'est un travail difficile et long, et c'est une des raisons pour lesquelles ceux qui ont parcouru ces lettres trop vite n'ont pas compris du tout ce qu'il pouvait y avoir dedans. J'ajoute qu'il y a un problème de fond. Un des arguments qui a été avancé, c'était de dire « Oui, mais les données de ces lettres sont en contradiction avec les connaissances de la science. En particulier, la vitesse de la lumière est universellement fixe, connue, et on ne peut pas la dépasser. » Soit. Alors, je vais faire un petit parallèle et raconter une petite histoire. Et ça c'est une réalité pour l'instant, c'est pas une petite histoire. Des explorateurs en 1930 ont découvert à la surface de la Terre des peuples, pas beaucoup, mais des peuples qui vivaient encore à l'âge de pierre. En 1930. C'est-à-dire que il y avait un décalage de culture qui se chiffrait entre 5 et 10 000 ans entre des gens qui vivaient à la surface du globe en 1930. On peut imaginer que d'autres se trouvaient dans un stade intermédiaire et qu'il y a des peuples qui avaient grossièrement 500 ans à peu près de décalage avec nous, enfin disons les pays développés. 500 ans, c'est grossièrement, ou 400 ans, c'est grossièrement l'époque où Copernic a fait la percée de la mise en place du système héliocentrique. Avant lui, Ptolémée avait... La théorie de Ptolémée disait la Terre est le centre de l'univers et tout tourne autour. Copernic, donc, était un esprit d'avant-garde en 1600 et quelques. On va s'imaginer nous-mêmes, cette fois-ci je commence ma petite histoire, on va s'imaginer nous-mêmes découvrant ce peuple qui a 400 ans de décalage, et on découvre que, en regardant un petit peu ce qu'il sait faire, on découvre qu'il a un Copernic chez lui et que ce type est quand même très intéressant, il s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, on va décider de lui faire savoir qu'il existe autre chose sur la Terre que sa propre civilisation, et on lui écrit une lettre dans laquelle on lui raconte simplement le fonctionnement d'un téléphone portable. Et on lui parle donc d'électricité, de batterie, de relais, d'écouteurs, de microphones, enfin des tas de trucs dont il sait absolument pas ce que ça peut vouloir dire. C'est déjà des mots dont il sait même pas ce que ça représente. Et face à ce document, qu'est-ce qu'il se dit ? Deux cas, ou bien c'est vrai et il essaye de comprendre et il dit mais personne ne comprend, enfin autour de moi personne ne comprend, moi-même je comprends absolument pas ce que c'est, donc je le fous à la poubelle et puis c'est fini, terminé. Et donc c'est quelqu'un de facétieux qui m'a écrit ça, mais ça peut pas être pris au sérieux. Or pourtant nous on sait que le téléphone portable ça fonctionne, on s'en sert tous les jours. Donc il y a un problème. Alors on en tire, moi j'en ai tiré une leçon fondamentale, c'est que si la science d'aujourd'hui me dit que c'est pas vrai, et si quelqu'un prétend avoir de l'avance sur moi, eh bien je n'ai pas le droit de considérer qu'il a tort. J'aurais plutôt tendance à considérer que c'est moi qui ne suis pas encore assez mûr. Parce que derrière Copernic, il y a eu Kepler, et puis il y a eu plus tard, il y a eu Newton bien sûr, qui lui a reconstruit le système avec la gravité. Et plus tard, après Newton, il y a eu Einstein qui a encore réécrit complètement la gravité. Donc dans l'histoire, en fait, l'histoire du système solaire, elle a été vue à la Ptolémée, à la Copernic, à la Newton, à l'Einstein, et elle sera vue à la je sais pas qui, un de ces jours. Finalement, on voit bien que tout ça évolue et que notre image de nos connaissances d'aujourd'hui est une image d'un point. Dans le temps, ça n'est pas l'image du savoir absolu. Nous n'avons pas le droit de dire « c'est impossible », nous avons seulement le droit de dire « ce n'est pas conforme à nos observations et à notre théorie », parce que ça n'est qu'une théorie. Donc, sur ce plan-là, il faut abandonner le concept et dire « si les documents nous annoncent des choses qui nous paraissent énormes, moi, mon point de vue, c'était de dire « bon, dont acte, j'enregistre, il est probable que je ne sais pas encore assez de choses, mais je n'ai pas les moyens de refuser la vérité à ces documents ».
Oui, alors c'est le problème beaucoup plus large de la science actuellement, qui, si elle n'a pas l'observationnel ou la possibilité de renouveler une expérience, refuse un certain nombre d'événements qui par exemple au XIXe siècle étaient celui des météorites, parce que les pierres ne pouvaient pas tomber du ciel. Après, il y a eu la foudre en boule. Bon, bah maintenant, on refuse l'idée d'une possibilité de voyage plus, non pas plus rapide que la vitesse de la lumière, mais le fait de pouvoir peut-être passer, comme dit très bien Jean-Pierre Petit, comme j'aime beaucoup son image, c'est le piéton qui traverse Paris, et puis l'autre qui prend le métro et qui arrive avant, et on dit c'est pas possible. On peut pas arriver plus vite que moi qui ai couru en traversant Paris, et pourtant si c'est faisable. Donc est-ce qu'il y a... Les humites nous disent qu'il y a un métro express, disons une voie de métro express entre deux étoiles ou deux planètes de notre espace, qui est celui de l'univers gemellaire. On rejoint bien sûr, disons que Jean-Pierre Petit a rejoint les théories humites, parce qu'il a eu connaissance des lettres probablement entre les années 70-75. Il a recréé un modèle terrestre à partir des informations contenues dans ses lettres, qui explique notamment le problème de la masse manquante, qui n'est bien sûr pas le modèle communément admis à l'heure actuelle, parce que les scientifiques refusent, enfin j'entends les astrophysiciens, refusent le principe même de la possibilité d'un univers gemellaire. Et moi, ce que ça fait 5-6 ans que je lis ces lettres avec beaucoup d'attention, et ce que je remarque, c'est que les modèles humites ne sont bien sûr pas prouvés à l'heure actuelle, mais par contre, rien dans les modèles humites ne peut choquer un esprit ouvert.
Ah, tout à fait. En plus, les humites nous confirment que la vitesse de la lumière que nous avons observée constante et impossible à dépasser, ils l'admettent aussi en disant « il n'y a pas de problème, elle est constante et elle est impossible à dépasser, mais nous ne savons pas tout, c'est-à-dire nous les terriens ne savons pas tout, et tout ça s'intègre dans un ensemble plus vaste qui est le multi-univers avec des paires de cosmos, donc les univers gemellaires comme l'a dit André Jacques ». Alors bon, sur la partie plus scientifique, on peut encore développer plus longtemps. Simplement, l'approche de ces documents demande donc, d'une part, de les lire lentement, de vérifier, de chercher à valider l'information systématiquement par lecture d'autres lettres, ce qui veut dire qu'il faut tout lire pour avoir une vraie vision du total. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit été amené à travailler pour la langue elle-même, bien sûr. Alors, il est clair que si on non seulement on ne lit pas beaucoup les lettres, ou si on les lit en surface, et si en plus on lit plus ceux qui ont écrit sur les lettres que ceux qui que les lettres elles-mêmes, on risque de véhiculer des informations déformées ou fausses, et ça c'est pas trop sérieux quand même.
Voilà, en fait, il y a une soi-disant rationalité scientifique qui a rejeté l'affaire Humeau sans avoir eu réellement de démarche scientifique. C'est-à-dire sans avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier. Bon, on va pas citer de nom parce que ça sert à rien.
C'est pas la peine.
Donc, par contre, je crois que maintenant, ça serait peut-être intéressant d'aller faire un tour sur ce que, sur la civilisation humide et ses caractéristiques. Comment pourrait-on définir cette civilisation humide, Jean?
Le trait fondamental, d'une part, c'est bien sûr qu'elle est dans une situation de connaissance plus avancée que les nôtres, sur autant la science que la connaissance de l'homme. Et c'est un des points les plus importants parce que c'est ce qui va donner accès à la compréhension de leur métaphysique. Ils insistent énormément sur la progression nécessaire en parallèle de la connaissance de l'homme, de son fonctionnement cérébral et de la connaissance scientifique, c'est-à-dire des modèles de représentation de l'univers. Faut bien savoir, on le rappelle, que les choses ne sont pas comme nous les découvrons, c'est que nous découvrons une façon de les décrire. C'est-à-dire que nous découvrons à chaque fois un modèle plus perfectionné qui rend compte de la réalité, cette réalité étant par définition inaccessible. Le modèle sera toujours de plus en plus fin. Alors, le modèle humide, celui qui fait intervenir les fameuses ibozoü, ce modèle, lui, d'après les humides, est un modèle satisfaisant pour rendre compte, dans l'état actuel de leur développement, de l'ensemble de leurs observables. A priori, pour nous, c'est un rêve, un système unitaire qui permettrait d'écrire à peu près tout, et donc prévoir à peu près tout, dont les voyages, c'est quand même faramineux. Alors, la métaphysique, elle est très importante. L'homme, cette civilisation a dépassé, on a une courbe d'ailleurs qui situe dans l'évolution mentale de l'homme, la Terre est encore en phase ascendante, une courbe un peu en cloche du style courbe de Gauss, la Terre est encore dans la phase ascendante, alors que les humides sont dans la phase déjà descendante, c'est-à-dire qu'ils sont un peuple dont ils estiment qu'il est en train de préparer doucement sa disparition.
Alors oui, bon, la disparition, ça peut faire peur aux gens, se dire, mon Dieu, si nous arrivons à la fin de notre civilisation, nous allons disparaître.
C'est à des échelles de millions d'années, hein. Il faut rester. Donc en fait, le problème, il n'est pas là. Simplement, ils ont une vision, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle qui leur permet de prévoir un petit peu comment leur civilisation va s'éteindre sur leur planète. Et il faut être conscient, la civilisation s'éteint avant l'étoile qui héberge la vie, d'après leur constat, sur d'autres planètes et d'autres systèmes solaires.
Hein. Alors on va arriver à une notion qui risque éventuellement de ne pas plaire à certains, c'est évident. C'est une civilisation qui est en même temps, je dirais, socialiste, qui est en même temps religieuse, qui est en même temps scientifique, qui est en même temps très humaniste. Et qui a pris du temps pour évoluer.
C'est clair. Ils situent l'apparition du premier homme, c'est-à-dire du premier individu conscient, Hein, et alors chez les humides, ça a beaucoup d'importance. Ils sont d'accord avec l'évolution décrite par Darwin à une seule différence, c'est l'apparition de l'homme, c'est-à-dire de la conscience. Pour eux, c'est une rupture, un saut quantique dans la qualité du cerveau, et le quantique étant rattaché d'ailleurs à des atomes de krypton dans le cerveau, qui fait que un préhominien est devenu un homme, c'est-à-dire il a acquis la conscience, probablement pas dans sa vie, mais un enfant est né avec la conscience de parents qui n'en avaient pas. Ça va très loin, ils expliquent aussi que le phénomène, et là que les catholiques me pardonnent, hein, parce que je vais décrire un petit peu ce qui se passe d'après les humites, le phénomène connu par la Terre avec la personnalité de Jésus-Christ est un phénomène qu'ils ont connu eux aussi sur leur planète, et ils disent que ce phénomène est un phénomène répandu sur d'autres planètes en donnant des fréquences d'apparition et des choses comme ça. Et donc, Jésus-Christ de leur planète, ils l'ont qualifié comme un nouveau saut quantique dans la progression humaine. C'est-à-dire qu'à terme, c'est pas un Jésus-Christ, mais c'est tous les habitants de la planète qui vont accéder à ce niveau de connaissance et ce niveau de symbiose avec Dieu et leur esprit collectif, et qui va les amener. Malheureusement, ce type d'être est un être qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant, et c'est ça qui provoque l'extinction de la vie sur une planète quand, d'après leur théorie, d'après la théorie humaine, quand les hommes deviennent tous suffisamment fils de Dieu pour ne plus être capables d'avoir eux-mêmes des enfants, et donc la civilisation disparaît. Il y a encore quelques millions d'années avant que ça arrive.
Oui, on a le temps. Nous, on va pas connaître, on va pas connaître ce problème, ou alors éventuellement, ce que je ne vois pas du tout comme un problème, c'est, je trouve que c'est un saut extraordinaire, d'ailleurs, qui peut un peu se raccrocher aux idées de Teilhard de Chardin.
Ah, tout à fait, puisque la question qui est posée, c'est Dieu, enfin je veux dire, y a-t-il eu un sauveur seulement sur la Terre ? Un point important, les humites ne disent pas que l'incarnation de Dieu sur leur planète était venue pour sauver. Elle était venue pour informer sur leur planète. Elle est venue pour apporter des informations sur un esprit, et on va retrouver la civilisation là, sur un esprit, je vais dire communautaire. T'avais dit un petit peu socialiste. En fait, non, c'est communautaire, oui. Avec une très très haute perception de la part de l'individu de sa place dans la collectivité. Quand je dis place, ça veut dire responsabilité dans la collectivité. L'individu se sent d'abord responsable de la collectivité et comme participant de cette collectivité, plus que de sa propre liberté individuelle. Et cette liberté individuelle, elle est au service de la collectivité dans son esprit. C'est une autre façon complètement différente de voir la vie et la place de l'homme à l'intérieur de la vie, n'est-ce pas ?
Oui, alors absolument. Alors, il y a quand même une question que doivent se poser les éditeurs. À quoi ressemblent les humites ?
Ah ! Eh bien, je dis à chaque auditeur, vous en avez peut-être croisé un dans la rue un jour, sans le savoir, parce que, à part le fait qu'ils se déclarent un tout petit peu plus grands en moyenne que nous et qui sont, on va dire, plutôt du type nordique, ils se sont toujours fait passer pour des Suédois, Norvégiens ou Danois. Et dans des pays, bien sûr, qui n'étaient pas ceux-là, bien qu'ils aient été en Allemagne quand même, et donc certainement aussi dans les pays nordiques. Mais ils se sont fait passer avec des faux papiers de ce genre-là. Alors, ils ont une caractéristique fondamentale, des caractéristiques qu'ils nous cachent, bien sûr, sans doute dermatologiques. Apparemment, il est question d'une tache de couleur qu'ils pourraient avoir sur la peau. On ne sait pas où. Mais ce qu'ils ont surtout comme caractéristique, c'est qu'ils ont une voix qui est reconnaissable, très reconnaissable, bon, relativement. Il l'explique en disant que chez eux, les jeunes perdent toutes leurs caractéristiques vocales, enfin 90% de la population perdent les caractéristiques vocales vers l'âge de la puberté. Alors c'est assez proche de ce qu'on connaît nous, hein, les garçons muent chez nous, mais bon, ils ne font que muer. chez eux, les garçons et les filles perdent la capacité vocale. Et donc, dès l'âge de 2 ans, on leur met un implant, qui est un tout petit implant, ils disent que c'est à la taille d'une lentille à peu près, dans la gorge, et cet implant est connecté par des ondes gravitationnelles avec une source d'énergie et des haut-parleurs, et un petit haut-parleur qui porte en espèce de pendentif autour de un petit peu comme chez nous, quelqu'un qui serait laryngotomisé.
Tu portes un petit pendentif là. Bon alors, il y a des gens qui travaillent sur les lettres humides, bien évidemment, qui font partie d'une liste de réflexions sur les lettres humides. Et notamment, il y a un groupe qui a travaillé sur les différences physiologiques entre les humites et les terrestres, et nous avons repéré 20 différences physiologiques qui sont expliquées dans les lettres. Alors bon, ça va de la formule chimique des cheveux, à certaines structures cérébrales, des sensibilités photodermologiques, bon, etc. Alors bon, c'est pas, on va pas faire la liste là, parce qu'il y en a une vingtaine, mais on a dans toutes ces lettres des informations qu'il faut aller chercher. Alors, pour chercher ces informations, c'est pas toujours facile, parce que c'est très disséminé, mais en plus, ils ont, c'est pour ça que je voudrais maintenant revenir un petit peu au langage, oui. Ils ont utilisé un langage qui est quand même le thème principal de ton livre. Oui. C'est Humo de vrais extraterrestres et c'est aux éditions Aldan.
Oui,
je fais un peu de pub. Ils ont donc disséminé dans ces lettres un certain nombre de mots sur lesquels s'étaient un petit peu cassés les dents les linguistes. Il y avait des traductions bien évidemment qu'ils nous donnaient, mais en fait, tu t'es aperçu que ces mots, il y en a 1350, peut-être un peu plus maintenant, en fait, 1360, oui, enfin bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui. Ces mots, en fait, voulaient dire plus que la traduction qu'ils en donnaient.
Oui, surtout qu'ils préviennent en disant, parce qu'en fait, dans les textes, ils citent de temps en temps, pardon, ils citent de temps en temps un de leurs mots avec une espèce de traduction ou de d'explication. Quelquefois, le mot n'a pas d'équivalent conceptuel pour nous, et donc il y a toute une explication pour essayer de faire comprendre non seulement le mot, mais aussi ce qu'il représente dans leur civilisation. Ils préviennent bien que ils ont eu des handicaps terribles pour se rendre intelligible, parce qu'il y a des fois où leur façon de penser, leur façon de voir est tellement différente de la nôtre que c'est pas facile du tout de communiquer. Alors, bon, c'est vrai que des gens s'étaient intéressés à ça. Alors moi, j'ai mis le pied dedans sans connaître du tout ce qui avait été fait autour. Je suis tombé amoureux de ces documents, passionné, tout seul, dans mon coin. Et simplement, bon, comme je suis un informaticien de métier et, concepteur de système, j'ai cherché à imaginer comment je pourrais arriver à vérifier si cette langue était réelle ou si, bon, après tout, ça pouvait être aussi un montage, quelque chose de bidon, et à un moment ou à un autre, on arriverait à démontrer quelque chose. Et puis, je me suis dit autre chose, je me suis dit que, scientifiquement, je n'avais pas le droit de décider que c'était faux d'avance, et donc que l'hypothèse de la réalité des documents, de leur origine réellement extraterrestre, était existante. Il fallait que j'en tienne compte. Et je me suis dit, si ces gens-là expliquent qu'ils ont une autre mentalité que nous, qu'ils ont du mal à traduire les lettres, etc., je me suis dit, il n'y a strictement aucune raison pour que leur langue ressemble aux nôtres. Aucune. Ou alors, ça voudrait dire qu'il y a un schéma commun mental linguistique à travers toutes les planètes, ce qui me paraissait quelque chose d'énorme au niveau statistique. Bon, ça me paraissait, surtout que je suis convaincu, moi, que les mondes habités, il y en a certainement pléthore. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, la seule solution pour tirer quelque chose de ça, c'est de remonter à la source. Le principe étant, et ça, les linguistes ne peuvent pas le contester, le principe étant de chercher l'équivalence entre ce qu'ils appellent un signifiant, ce qu'on dit et à signifier ce qu'on veut faire comprendre. Et il y a bien un moment où il y a une équivalence simple entre un signifiant et un signifié. Il faut le trouver à quel niveau se trouve cette équivalence. Comme je suis informaticien, j'ai dit je vais utiliser les machines et essayer de me servir des machines pour ça, ce que j'ai fait. Et après avoir enregistré dans mon système toutes les informations, y compris, j'ai pu commencer à faire apparaître des différences. Alors, il faut bien voir, premièrement, que ces documents ont été dictés. Les humides, pour des raisons X et Y, ont essayé de se servir de machines à écrire. Ça n'a pas été probant. Ça leur fait un peu mal aux doigts. Ils ont préféré dicter. En plus, en dictant à quelqu'un, ils créent un passage sens unique, parce que la personne qui tape au clavier, ce qu'on lui dicte, elle entend, elle enregistre, mais la remontée à l'auteur qui a dicté, c'est trop tard. On n'a plus aucune trace. Bien que eux-mêmes disent qu'ils ont fabriqué des copies par enregistrement eux-mêmes de leur dictée pendant qu'ils dictaient au dactylographe. Alors, cette dictée a été faite donc vocalement. Et alors, on va demander, vocalement, il faut que vous ayez une idée de ce que peut donner la voix d'un humite. Alors, on a la chance ici d'avoir une installation qui va nous permettre de l'écouter. Alors, que vous sachiez bien que d'une part, on se rappelle qu'un enregistrement n'a jamais fait preuve de son auteur, c'est-à-dire qu'on a là des sons sur bande magnétique, mais ça ne démontre pas, hélas, que les auteurs et ceux qui parlent sont vraiment extraterrestres. Personnellement, j'en ai tiré des indications phonétiques de ce qui est dit dans cette bande. C'est une conversation, c'est la seule qu'on connaisse. C'est quelques mots espagnols prononcés par un humite qui dit aux gens réunis dans qui devait poser des questions par téléphone et qui leur dit « Ne posez pas vos questions, je vais couper la communication, ne posez pas vos questions ». Qu'on y aille. Alors, vous avez peut-être mal entendu, mais la fin, c'est Señor Desconecto. Ça veut dire, je coupe la communication, hein. Señor Desconecto. Voilà. Alors ça, c'est un enregistrement qui a été fait à la volée parce qu'ils ont toujours eu les moyens de détecter les enregistrements et celui-là, apparemment, ils n'ont pas eu le temps de s'en apercevoir. Il a été fait par un micro ventouse sur le téléphone, hein. Et c'était en mars 1969. À Madrid. Bon, pour revenir sur le contenu donc des sons, les mots. Moi, j'ai cherché à isoler donc ce couple signifiant-signifié, c'est-à-dire comment on disait quoi finalement, en faisant des comparaisons logiques simples entre des mots qui avaient seulement une lettre de différence. Parce que il donne par exemple, il cite le mot XI, XII, qui est transcrit par le dactylographe XII pour dire le jour, et un autre mot XEE, XEE, pour décrire l'orbite de la trajectoire ou l'orbite d'une planète autour de son soleil ou de son étoile. Ces deux mots ont en commun le X. Et donc, le principe logique en mathématiques, c'est ce qui est commun aux deux mots est forcément ce qui est commun aux deux signifiés, dans le signifiant et dans les signifiés. Alors, quand on se penche sur la notion de jour, quand ils disent que c'est en plus une rotation de la planète sur elle-même, et que l'orbite, c'est aussi une espèce de rotation, c'est une boucle fermée, j'en ai déduit que le son commun X représentait quelque chose comme la boucle ou le cercle. Mais c'était une idée simplement, et j'ai cherché donc d'autres mots qui différenciaient uniquement par une lettre, pour voir si cette lettre portait ou si si c'était signifiant des différences entre les deux mots. Et alors le résultat a été rapide. J'ai eu, je dirais relativement vite, en l'espace de vite à l'échelle de mon travail, c'est-à-dire en l'espace de 2 mois ou 3 mois, j'ai eu la confirmation que avec 4 ou 5 sons, bien sûr, puisque chaque lettre correspond à lettre transcrite par le dactylographe correspond à un son qui a été émis à la dictée par l'humite, que ces sons correspondaient à des idées fondamentales. Et j'ai commencé, toujours en méthode scientifique, à vérifier si ce que j'avais compris fonctionnait. Et donc en réinjectant mes résultats dans d'autres mots pour voir si ça fonctionnait. Et c'est comme ça que je suis arrivé au tournant, je vais dire au tournant de la découverte, mais au bout de quelques mois, à cette fameuse expression DA pour le liquide. J'avais d'un côté le AA qui me disait que c'était grossièrement un équilibre de taille ou un équilibre de magnitude, et le D qui correspondait apparemment à manifestation, forme, et donc le liquide était déclaré comme avec une manifestation, avec un équilibre de magnitude. C'était pas tout à fait ce qu'on appelle liquide pour nous. Et à ce stade-là, j'avoue que j'ai balancé. J'étais devant un problème simple. J'avais un système débutant avec quelques sons qui correspondaient bien à des idées dans des mots. Mais quand je les recombinais, ça donnait pas du tout ce que je voulais. Ou du moins quelque chose de logique. Et là, je me suis dit, voyons. Ou bien, j'ai tout faux. Et ce que j'ai cru être une piste, c'est pas bon. Faut tout reprendre au début. Ou bien, on m'a dit que c'est des gens qui pensaient pas comme nous, ils l'ont écrit, que de temps en temps ils avaient du mal à transcrire leurs pensées, et donc peut-être que c'est qu'ils pensent autrement, et bon, ça m'a chatouillé, j'ai dit bon sang, ça vaut quand même le coup d'essayer d'explorer cette piste un peu exotique. Et je me suis mis à me demander pourquoi une forme d'équilibre de magnitude c'était un liquide. Où ça pouvait décrire un liquide. Et c'est là que, bon, alors il m'a fallu un petit peu de temps, mais surtout le plus difficile, ça a été de sortir de ma classique, enfin de ma formation, de ma pensée, pour découvrir que, mais oui, un liquide, chaque fois qu'on en rajoute, il se remet à plat, à l'horizontale, et puis de toute façon, il y en a partout pareil, à la même hauteur. Et donc, il se manifeste effectivement avec une hauteur égale, constante. C'était toute une autre façon de décrire un liquide, complètement différente. Et donc à partir de là, ça m'a donné le moral. Il en a fallu, parce que après, c'était parti pour 3 ans et quelques.
Oui, alors en fait, à partir d'un certain nombre de mots qui se ressemblaient mais qui étaient différents par une seule lettre, ça a permis d'isoler ce facteur commun, la partie qui était commune, et donc d'isoler une lettre. Alors moi j'ai un exemple que j'aime bien, là c'est le xabi, qui en humite signifie maison ou l'espace, X-A-A-B-I, et par contre ils ont un mot pour signifier la salle de bain, c'est exabi, E-X-A-A-B-I. Je ne sais pas si je prononce comme prononcent les humites, mais je pense que c'est...
On n'a malheureusement pas de traces.
On n'a pas grand-chose. Alors, donc, sur un exemple comme ça, Jean, tu arrives à isoler le E. Alors, que t'as appris cet exemple en ce qui concerne le E?
Oui, alors bon, là c'est intéressant parce que toutes les parties de la maison, les parties d'habitation de la maison, toutes les chambres, toutes les pièces portent ce même radical xabi. C'est manifestement bon à quelque chose de commun et la pièce qui est appelée xabi est décrite qu'on peut traduire comme salle de bain. Or, la description de ce bain est une description qui n'a rien à voir avec la nôtre. Chez nous, une salle de bain, ça comporte une baignoire ou une douche avec de l'eau qui coule. Alors, on remplit la baignoire pour se plonger dans l'eau, ou bien on fait couler de l'eau sur soi avec une douche et éventuellement avec des sels un peu aromatiques, des choses comme ça. Mais le concept, c'est on se mouille et on se lave et ensuite on se sèche et voilà. eux, ils décrivent quelque chose de complètement différent. Ils disent, eh ben oui, nous, le bain de la journée, c'est que on se met dans un endroit de la pièce. Alors, il y a des parois cristallines. Ah oui, il y a aussi une chose, c'est que ils ne supportent pas de se montrer nus, ni d'être vus nus par les autres. Donc, quand ils sont dans une situation de douche comme ça, il y a des parois cristallines, on imagine, hein, une espèce de plastique ou quelque chose comme ça, quatre parois qui isolent l'individu de la vue des autres. Et puis, ils portent une espèce d'habit, de cape qui va le protéger un peu, mais après, il va l'enlever. Et diffusé dans la pièce, se trouve un mélange de vapeur d'eau et d'ozone dont on sait les propriétés pour la santé, mais il faut vraiment très bien doser parce que ça peut vite devenir dangereux. Et donc il s'expose en fait à l'ozone et à la vapeur d'eau pendant une heure et demie, hein, c'est pas rien. Leur journée dure un peu plus que la nôtre, hein, elle dure 30 heures et quelques. Mais il s'expose et bon, c'est ennuyeux, c'est fatigant. Alors on se distrait comme on peut, et en particulier avec nous, c'est de la musique, ben eux c'est des odeurs. Et ils comparent très facilement leur concert d'odeurs, d'enchaînement d'odeurs combinés, des accords, ils disent des accords parfaits au même titre que vous les faites vous en musique, chose qu'ils déclarent ne pas savoir faire. Mais et eux ils savent le faire avec des odeurs. Et finalement ces odeurs dans le composé forment tout un concert pendant une heure et demie. Ça a été programmé par chacun son tour, la maîtresse de maison ou le père, mais ils disent toujours que les femmes sont beaucoup plus sensibles et puis font ça beaucoup mieux. C'est finalement destiné à donner des sensations agréables. Et ce eux, Xavi, le sent eux. En fait, le son prononcé « et » ou « e », on ne sait pas très bien, peut-être probablement plus « et » d'ailleurs, finalement traduit la sensation, exprime la sensation, l'image mentale que l'on se fait de nos perceptions, ce qu'on en ressent. Et on comprend à ce moment-là pourquoi « eux » que ça habille veut dire... Alors, « eux » disent « salle de bain », et en fait, ça veut dire « espace ». Espace, ça veut dire espace de sensation, espace à sensation. Ça n'est pas tout à fait la même culture que nous, c'est clair.
Alors, c'est à partir de là, à partir d'un certain nombre de sons isolés que tu as appelés des sonceptes, puisque c'était des sons qui formaient des concepts, il y en a 18, 17 ou 18 ?
Non, alors bon, il y a 17 sons. Proprement dit, et un 18e que j'ai associé au son, qui est un procédé phonologique qui est le doublement d'un son. D'accord. Ça, c'est assimilable à une idée supplémentaire.
D'accord. Voilà. Donc, 17 sons fondamentaux qui, en fait, représentent des concepts, des idées et non pas des objets. C'est toute la différence avec nos langages terrestres où nous désignons les choses que nous souhaitons désigner, nous expliquons les choses que nous voulons expliquer avec des mots-objets. Moi, il y a une idée que j'aime bien en ce qui concerne, pour bien faire comprendre la différence entre le mot-objet et le mot-concept, bien qu'en fait, dans cet exemple, on va quand même ajouter l'un à l'autre deux mots-objets, c'est le chapeau et le couvre-chef. Alors, bien sûr, le couvre-chef, c'est aussi un mot-objet, mais... Ça donne une petite idée de ce qu'est un concept et un soncept. Enfin,
oui,
un concept.
Oui. Oui. En fait, donc, la langue est construite avec 18 pièces de base, que sont ces 17 sons plus le doublement. Le doublement associé à n'importe quel son. Et donc, le doublement peut porter sur le A, sur le B, peu importe. Et ces sons sont combinés en association, hein, finalement c'est très simple. Alors, la mise en évidence de ces sons relationnels, c'est-à-dire que chaque son, par exemple le B veut dire contribution, le E veut dire sensation, le W veut dire information, le U veut dire dépendance. Tous ces mots-là sont des mots abstraits, correspondent à des mises en relation d'idées. Si bien que pour décrire quelque chose, les humites le désigner, pour désigner quelque chose, les humites vont le désigner par cette description, et cette description, elle est forcément fonctionnelle, ça va désigner une fonction plus qu'un objet. Alors, les sonceptes sont groupés par un, par deux, par trois, par quatre, peu importe. Les mots sont fabriqués à la demande par combinaison. Je vais vous donner un exemple. Le A, ça veut dire effectivité, ça traduit la vérité, la réalité des choses, parce que ça traduit le fait que ça a été vérifié. Ça, c'est A. B, c'est pour dire contribution. Si je dis BA, BA, je dis contribution effective. Le Y, qui se prononce un peu I, hein, puisque c'est en espagnol, le Y, ça veut dire paquet ensemble. Si je dis IBA, ça veut dire ensemble des contributions effectives. Donc c'est finalement très simple d'associer des sons et de fabriquer des mots, des idées. Et on se rend compte que nous, pour dire ensemble de contributions effectives, il faut je ne sais combien de syllabes, alors qu'eux disent simplement IBA. C'est quand même très rapide, hein. Alors, c'est d'un langage d'une densité assez extraordinaire. Alors, quand on voit qu'une idée correspond à un son, par analogie avec les idées, le système idéographique, j'ai déclaré ce système idéophonémique, puisque un son, c'est ce qu'on appelle un phonème, dans le langage des linguistes, hein. Un son isolé. Qu'on fasse bien la différence, un phonème, c'est un son, la lettre, le son du S, le son du T, le son du U. Bon, chez les humides, c'est U, hein, mais chacun de ces sons constitue ce qu'on appelle un phonème. Et donc, ces phonèmes groupés permettent d'exprimer des idées. Alors donc, ce langage, je l'ai déclaré idéophonémique. Alors, on va revenir à l'histoire du chapeau. Le chapeau, c'est un objet qu'on se met sur la tête. Nous, on appelle ça chapeau, on sait très bien ce que c'est. Mais un humite, lui, un objet, il sait pas ce que c'est, puisque c'est un objet n'a pas de fonction. Il a de fonction que parce qu'on sait qu'on se met le chapeau sur la tête. Si jamais on a envie de le mettre ailleurs, c'est plus un chapeau. Ça s'appelle une chaussure. Pour les humites, ça veut dire, ça s'appelle une chaussure. Parce que dans ce cas-là, c'est un chapeau à pied, qu'on appelle une chaussure. On a un mot-objet pour la chose. Et on a autant de mots-objets que de choses à décrire. C'est comme ça que le vocabulaire français fait 80 000 mots, 120 000 avec les mots techniques. Donc, il y a un dictionnaire qui explique ce que chaque mot veut dire avec précision. Chez les humites, c'est pas le cas. Au lieu de dire un chapeau, on dit un couvre-chef. Ça veut dire, enfin, là c'est l'expression terrienne pour dire la même chose. Un couvre, couvre, parce que ça c'est une fonction. De couvrir, c'est déjà une action. Donc, et le chef, c'est la tête. Mais un humide dirait pas un couvre-chef. Il dirait quelque chose qui entoure ce qui sert à gérer le corps. Parce que la tête, ils appellent ça ya, et ya, c'est simplement, ça veut dire l'ensemble pour l'équilibre permanent. Et c'est bien par notre tête que l'équilibre de notre corps se fait. Hein, la soupe des hormones, électro-hormones dans le cerveau, hein, c'est tout ça, c'est de là-haut que partent les ordres hormonaux pour le reste du corps, et c'est au cerveau que remontent tous les signaux en provenance. Donc, pour dire un couvre-chef, les humites diraient « il y a ». Et à partir de là, eh bien, on a les fonctions qui correspondent aux descriptions, plus d'objets, mais de des choses, et à partir de ce moment-là, on est plus en dehors de la pensée, complètement de la pensée terrienne, hein, en dehors.
Bon, on va s'accorder 3 minutes pour digérer tout ça. 3 minutes, pas plus.
Hein. D'accord.
Radio ici maintenant, 95.2. Il est temps de retrouver donc André-Jacques Holbeck qui fait parler Jean Polion de son travail, en particulier sur le langage humo.
Oui, avant de revenir sur le langage, je voudrais juste repréciser quelque chose qui ne doit pas être très clair en fait pour les éditeurs, parce qu'on n'a pas répondu à la question réellement. Pourquoi les humites nous ressembleraient-ils, ou ressembleraient-ils à des Danois ? Tu as une idée ou tu veux que j'essaye de répondre ?
Ah bah vas-y, non, tu peux essayer de répondre, puisque de toute façon l'idée elle est proche de la tienne quand même. Enfin du moins, les explications sont un petit peu guidées dans les textes, hein.
Voilà, les explications sont un peu guidées dans les textes. Les humides disent dans les textes sur la biologie que, et d'ailleurs dans la majorité des textes quand ils parlent de ça, que de toute façon l'évolution dans l'univers aboutit, quelle que soit la planète, quelle que soit l'origine de l'évolution, à quelque chose qui ressemble à l'homme. Alors, moi j'avais été très frappé par cette idée parce que il y a quelques années, j'avais lu un livre d'un biologiste généticien néo-zélandais qui s'appelle j'ai un petit trou mais ça fait rien. Le titre de l'ouvrage c'est L'évolution a-t-elle un sens? Et il était arrivé exactement à la même conclusion que de toute façon l'évolution la plus efficace était quelque chose avec une tête, deux yeux, un nez, une bouche, deux bras, des doigts, qui en est 5, 10 ou 12. Voilà. Donc c'était un petit peu pour répondre à une question que doivent se poser les auditeurs en disant mais après tout, pourquoi sur une autre planète on n'aurait pas, des poulpes avec 50 bras, des ventouses, etc. Non, l'évolution doit arriver vers quelque chose qui ressemble à l'homme. Voilà, on peut repartir un petit peu maintenant sur le langage. Je voulais faire cette petite parenthèse.
Ouais, ok. Oui. En fait, le langage lui-même, il est surtout le véhicule d'une pensée, parce que tout le monde est bien d'accord pour, sauf quelques chercheurs, considérer que il n'y a pas de pensée sans langage ou pratiquement pas. Il n'y a surtout pas de langage sans pensée. Et donc. Ce langage est le témoin d'une forme de pensée complètement différente de la nôtre, et c'est ce qui me permet de démontrer avec des arguments scientifiques et linguistiques, puisque là, il faut faire la combinaison des deux, de démontrer que cette langue n'a pas pu être inventée par un homme de la Terre. C'est la pensée fonctionnelle, c'est-à-dire, par opposition, je vais appeler notre pensée la pensée objet, c'est-à-dire que chaque fois que nous désignons quelque chose, nous pensons à un objet. On dit un livre, on dit un micro, on dit un verre, ce sont des choses, des objets, et chaque fois qu'un mot est prononcé, il fait naître dans la tête de l'interlocuteur l'image de cet objet, soit en réel, soit en pensée, hein, et donc en évocation. Alors, là, c'est une pensée qui est complètement fonctionnel, c'est-à-dire que les choses ne sont pas dites telles qu'elles sont perçues, comme nous, un objet, on le touche, on dit tiens, c'est solide, etc. Là, on décrit les idées ou les choses par un ensemble de fonctions dans leur rôle, soit dans l'univers, soit dans la vie, etc. Je vais prendre un exemple simple, c'est l'histoire de l'eau. Nous, l'eau, c'est un fluide qui coule et puis qui prend la forme de n'importe quel contenant, comme tous les liquides d'ailleurs. Et l'eau, c'est le même mot qui nous sert à dire de l'eau pour boire ou de l'eau pour se laver. Un humite, c'est pas ça. Un humite, lui, l'eau, c'est quelque chose, on va voir quoi, mais c'est pas du tout la même chose que l'eau pour se laver. L'eau pour boire, c'est une eau qui est nécessaire à la vie, alors que l'eau pour se laver, après tout, on pourrait imaginer de se laver avec autre chose. D'ailleurs, peut-être qu'ils le font, d'ailleurs, avec autre chose que de l'eau. Alors, prenons l'exemple de l'eau. En humite, l'eau se dit « ou da ». On a vu tout à l'heure que « da », ça désignait les liquides, puisque c'est ce qui se manifeste en quantité égale, hein, et permanente. Ou, ça veut dire la dépendance permanente. Et alors, en fait, l'eau pour boire, qui est en fait un liquide vital, aucun organisme à la surface de la Terre ne pourrait vivre sans eau. La preuve, c'est qu'on a attendu qu'il y ait de l'eau pour que les organismes vivants commencent à apparaître. Alors, ce liquide, il est déclaré un liquide de dépendance permanente. L'eau pour boire, c'est un liquide de dépense, c'est le liquide de dépendance permanente. On voit bien que ça n'a plus rien de fluide, ça n'a plus rien. Il est décrit par son rôle dans la vie de tout le monde. Alors, ça pose un petit problème, c'est qu'il y a un problème de contexte, parce que le liquide de dépendance permanente pour un individu normal, c'est l'eau. Mais pour un individu un tout petit peu imbibé, c'est l'alcool. Pour une pompe hydraulique, c'est l'huile. Donc, le liquide de dépendance permanente n'est pas le même selon le contexte. Et c'est la difficulté du passage d'une pensée à l'autre. Nous ne pouvons pas.
Jean-Paul Lyon, c'est quand même, vous citiez un verre tout à l'heure, on pouvait penser à un verre de terre hors contexte. C'est le contexte qui a permis de...
Ah oui, excusez-moi, oui, quand j'ai dit un verre, je pensais à un verre pour la boisson.
Oui, mais nous aussi, on a ce problème du contexte enrichissant le...
Aussi, oui, oui, tout à fait, oui, exact, on a ce même genre exact, de problème, oui, on a aussi ce genre de problème, mais enfin, là, quand même, il est structural entre le fonctionnel et la pensée objet. Le problème du contexte se pose systématiquement. Et c'est une des difficultés, c'est-à-dire que nous avons du mal à imaginer qu'une culture puisse exister avec un contexte implicite autre que le nôtre. C'est ça le plus difficile, et c'est la difficulté que j'ai rencontrée avec tous ceux qui ont tenté une approche linguistique en face de la mienne, et qui à chaque fois ont buté sur cette nécessité du contexte, sans comprendre que si c'est fonctionnel, il y a forcément une acquisition de contexte. On ne sait pas eux comment la font entre eux. À mon avis, cette acquisition de contexte, elle est implicite par leur éducation. Depuis tout petit, ils ne savent communiquer que comme ça.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai effectivement regardé un peu dans les lettres, et on a 13 écritures différentes pour un mot qui est l'âme. Mmh. De la plus simple, alors je vais vous le donner, c'est Buawa, B-U-A-W-A, jusqu'à la plus complexe, c'est pas la peine que je vous la donne. À chaque fois, ces 13 écritures différentes signifient relativement la même chose, on parle de l'âme, mais par contre, à chaque fois, un signifiant exact qui est différent.
Ah oui, non, là, en fait, il faut bien comprendre, et alors c'est très bien, t'as raison de poser cette question comme ça, en fait... Le même signifié, c'est nous qui avons dit, c'est l'âme. En fait, il présente la même chose sous des angles différents. C'est comme si nous, on disait un jour de quelque chose que c'est un parapluie, mais c'est aussi un parasol. Il suffit qu'on l'ouvre quand il y a du soleil au lieu de l'ouvrir quand il y a de la pluie. C'est le même objet. Et on va l'appeler tantôt parapluie, tantôt parasol. Fonctionnellement, il est différent. Et pourtant, c'est le même objet. Alors là, en fait, l'objet qui est décrit et qu'ils ont qualifié par le mot « âme » par absence de meilleur descripteur dans nos langues, ce mot-là est un mot qui, en fait, traduit la nécessaire communication de l'homme avec l'esprit collectif et sa contribution obligatoire. Le BUA exprime la contribution obligatoire de dépendance de l'homme à son groupe collectif, à son esprit planétaire. En réalité, c'est parce que nous n'avons qu'un seul mot à mettre en face. Sinon, chaque transcription correspond très précisément à la volonté de mettre en évidence une fonction plus qu'une autre. Et avec 17 descriptions différentes, il nous donne 17 facettes d'une même réalité pour nous permettre de la percevoir, parce que c'est un concept qui est complètement en dehors de toutes nos idées. Complètement. L'idée de l'âme vue par les chrétiens ou par d'autres religions n'a rien à voir avec cette notion scientifique d'intermédiaire et de contribution à l'esprit collectif, contribution aller-retour, c'est-à-dire avec l'homme fournit des informations mais en reçoit aussi de l'esprit collectif et son âme s'enrichit au passage. Alors, c'est quand même bien une idée. Bon, nous n'avons qu'un mot, alors qu'en réalité, la description est multiple. On fait la même chose dans la pédagogie quand on veut, et c'est ce qui me fait dire que ces documents sont faits pour nous faire apprendre et nous faire découvrir. Quand on veut, un enseignant veut expliquer un concept ou veut expliquer quelque chose à ses élèves, il va le présenter sous plusieurs angles, il va le reformuler autrement pour faire rentrer les idées sous... Il y en a qui vont la comprendre sous un angle, d'autres sous un autre. Et donc c'est très très pédagogique, et on a cette chose non seulement pour l'âme, mais pour un certain nombre de concepts du mythe. Pas de problème, on a des descriptions concourantes à une même réalité. J'irais jusqu'à dire que c'est grâce à des multiples descriptions comme ça que j'ai pu affiner le sens de certains concepts, c'est-à-dire quelle idée était réellement portée par le son.
Oui, c'est passionnant. C'est passionnant parce que quand on commence à rentrer là-dedans, il faut reconnaître qu'on a du mal à ne pas vouloir aller jusqu'au fond de la compréhension de ce langage. Alors, le problème actuellement, c'est un nouveau travail qui a été fait, qui représente en fait un travail de linguiste, mais un travail de linguiste qui n'est reconnu par aucune université, qui ne peut pas être reconnu par une université à l'heure actuelle. Et pourtant, tu voudrais bien soutenir une thèse sur ce langage extraterrestre, ça serait fabuleux. On peut lancer un appel. Est-ce qu'il y a un recteur d'académie quelconque ou d'une faculté qui est prêt à accepter cette soutenance de thèse?
Bon, là, tu poses un problème qui est délicat. C'est le problème du rapport à l'esprit qui anime les scientifiques, on va dire, du milieu officiel. Dans ce travail, il sera forcément question d'une possibilité extraterrestre, de quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une structure universitaire est capable d'accueillir ce type de travail? Il semble que non. Je ne veux pas pour l'instant dévoiler de choses, mais il y a eu des approches de fait. Je mets tout le monde à l'aise, pas en France, mais il y a eu des approches de fait dans un autre pays. Oui, non, mais je ne sais pas les suites. Donc, et puis ça ne dépend pas de moi, parce que
bien sûr.
Mais effectivement, ce serait très intéressant parce que il y aurait certainement une contradiction que j'espère positive sur la critique du système que j'ai mis en évidence. Cela dit, il faut bien avoir présent à l'esprit 1345 vocables représentant chacun en moyenne 6. Sonorité, donc 6 idées principales, et 400 expressions à peu près de plusieurs vocables, ça représente des quantités de combinaisons qui sont mathématiquement exclues du hasard pur. Ce qui veut dire qu'il y a forcément une construction dans tout ça. Alors, peut-être que cette construction, moi je l'ai pas encore tout à fait bien comprise, c'est sûr, parce que je n'ai pas assez de base de travail, mais dans un premier temps, ce serait, c'est vrai, très intéressant de faire, je vais dire, de provoquer l'ouverture du système universitaire en France, par exemple, même dans un autre pays. Le problème est le même dans tous les pays, c'est d'avoir cette attitude, on va dire, d'ouverture vers des sujets qui ne sont pas orthodoxes ou traditionnels. Je dis pas qu'il faille étudier tout, mais je crois qu'il faut, si, il faut étudier tout pour, mais à suffisamment profond pour se faire une véritable idée, pas en lisant en diagonale deux pages et en disant non, c'est pas possible. La question est posée. Je ne sais pas quand on aura une réponse là-dessus, mais le jour, si jamais le jour se présente, j'irai bien sûr défendre la chose devant les universitaires. On va dire que ça sera pas la première fois.
D'accord. Alors, bon, on reviendra de toute façon tout à l'heure sur un petit peu sur ce que nous apprennent les lettres humites, sur les possibilités que nous avons éventuellement de faire certaines expériences à propos des informations, enfin, avec les informations qui nous sont données. J'aimerais que on essaye maintenant de parler un petit peu de la des caractéristiques du monde humo et de l'univers selon les humites.
Juste un petit peu avant, deux choses concernant les lettres, parce que bon, on va parler maintenant plus certainement des contenus des lettres, mais sur ce que représentent les lettres dans le monde et en Espagne. On a dit 34 destinataires espagnols, et un des arguments des gens qui sont plutôt contre, enfin je veux dire sur contre l'origine non terrestre des documents, disent mais c'est une fraude qui a été construite par un dénommé Jordan Peña, qui s'en est accusé en 1993 puis en 1998 dans une autre version. Ces gens-là donc disent oui, mais l'affaire n'a eu lieu qu'en Espagne, et donc les lettres malgré tout, bon. Personnellement, je me suis lancé dans une recherche de documents autres que les documents purement espagnols qui sont connus. Et donc, je vais vous donner deux informations qui vont être des nouveautés. La première, on avait l'intention ce soir d'écouter un petit peu Jean-Pierre Petit en l'interviewant aussi à propos du sujet. Il est malheureusement indisponible, mais il nous a fait communiquer une lettre dans laquelle il annonce que... dans son prochain livre qui va sortir
en janvier,
il y aura des lettres originales humites, dont une parmi celles qu'il a reçues personnellement. Donc on va avoir connaissance d'une nouvelle lettre que Jean-Pierre Petit a reçue. Donc il y a donc des destinataires en dehors de l'Espagne, puisque Jean-Pierre Petit a été destinataire. Alors, le résultat de mon enquête actuelle conduit à 18 destinataires non espagnols et extérieurs à l'Espagne. J'ai pour l'instant répertorié 18 destinataires non espagnols. Je n'ai pas encore les confirmations de tous, mais c'est en bonne voie. Et donc, on s'aperçoit que de 34, 18 extérieurs à l'Espagne, on a presque, même pratiquement dépassé les 50%. À l'extérieur de l'Espagne, 18 sur 34. Bon, ça commence à donner un petit peu plus de consistance au dossier Humo en dehors de l'Espagne. J'ajoute que, et là, c'est une information de toute première main, il est très vraisemblable, quand je le dis, c'est que j'ai des billes, mais je peux pas dire plus pour l'instant, il est très vraisemblable que des lettres ont été envoyées avant le début de l'affaire espagnole, dans d'autres pays que l'Espagne. J'en ai actuellement des extraits et j'attends de pouvoir en avoir des morceaux entiers. Ça, c'est encore un point, parce que si on s'aperçoit que, si on donne du crédit à l'hypothèse Peña, c'est plus pensable qu'il ait écrit des lettres 2 ans, voire 3 ans, avant le début de l'Espagne, l'histoire de Sesma, où il a prétendu avoir été porté, enfin c'est Urtuño qui a été porté les photos à Sesma, prétendent-ils. Bon, on aura probablement des choses intéressantes dans les mois à venir sur ce sujet. Mais bon, revenons un petit peu au contenu des documents.
Oui, alors bon, de toute façon, il sera impossible de faire en une heure ou quelque chose comme ça le tour complet des documents. Il y a, nous l'avons dit, une quantité de données. Je pense quand même que on peut donner quelques ouvertures sur deux idées fondamentales humites. Qui est en fait le fait qu'ils refusent notre idée aristotélicienne du principe du tiers exclu et la tétravalence. On commence par le tiers exclu si tu veux.
Oui, le tiers exclu c'est parce que c'est de chez nous et donc on va commencer par quelque chose qu'on comprend mieux. Le principe dit du tiers exclu auquel qu'on rattache à Aristote puisque c'est lui qui l'a prononcé ou exprimé pour la première fois, est un principe logique qui consiste à dire que une chose ne peut pas être à la fois elle-même et son contraire, ce qui amène forcément à déterminer son contraire. On va noter que cette chose ne peut pas être à la fois elle-même et son contraire, et que il n'y a pas de tiers exclu entre la chose et son contraire. Alors, c'est important, on s'aperçoit que la définition du tiers exclu se fait toujours avec une négation. C'est-à-dire, on est incapable d'exprimer notre logique du tiers exclu autrement qu'en disant non, qu'en disant ne. C'est assez phénoménal. Dans la logique humite, et on ne sait pas dire non. La négation n'existe pas dans la logique humite. Et donc, en dehors de la tétravalence. Alors, on retiendra juste que notre logique du tiers exclu, c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas à la fois blanc et noir. Il n'y a pas d'autre solution. Cette logique-là, eux, la rejettent et disent c'est pas bon, ça ne permet pas de décrire convenablement l'univers, et donc il faut pas s'attacher à cette logique. Nous la rejetons. Curieusement, cette logique n'existe que par la négation, et leur logique à eux n'inclut pas de négation. Alors il faut pas mélanger la logique tiers exclue qui est la nôtre, mais c'est une logique de dialectique simplement. Et la logique dite tétravalente des humites, parce que on l'appelle tétravalente parce qu'elle a quatre propositions. Mais la logique du tiers exclu, pour la définir complètement, il y a trois propositions. Donc on devrait dire de la nôtre qu'elle est trivalente, alors qu'en réalité, elle ne traite que de deux cas. Et c'est pour ça qu'on l'a dit bivalente. Alors, la logique humite est une logique c'est la logique axiomatique des fondements de l'univers. Ces quatre principes sont pour eux les quatre piliers de toute réalité dans l'univers. La première chose, qui est banale, simple, c'est que ce que l'on peut vérifier existe. Donc, ce qui a été vérifié a une existence. Vérifier, c'est l'expérience. Vérifier en pratique, il se déclare empiriste. Hein. Donc, première chose, ce qui a été vérifié a une existence. Ce qui n'a pas été vérifié, et qui peut faire partie des choses vérifiables, ce qui n'a pas été vérifié, n'a pas d'existence. C'est quelque chose de mental, c'est encore une idée. Ce n'est pas un fait, c'est une idée. Donc, ce qui a été vérifié, c'est une idée. Ce qui n'a pas été vérifié, c'est une idée. Il y a des choses qui ne peuvent pas être vérifiées. Et le quatrième principe, tout est interdépendant. Tout est lié. Et lié par tout un système d'équations qui permet de rendre compte en principe de tous les phénomènes. Alors dans leur logique, il faut bien se rappeler que il y a ce qui est représentable par un modèle des équations. Et cette chose-là, enfin tout ce domaine de pensée, ils appellent ces idées des idées dimensionnelles, portant sur des réalités dimensionnelles. On sait exprimer une longueur, c'est une dimension, une largeur, c'est une dimension. Donc quand on fait un modèle avec plusieurs dimensions, c'est dimensionnel, incapable d'exprimer par des équations. L'âme, Dieu, sont des choses qui ne sont pas exprimables par des équations, et elles sont donc des choses déclarées appartenir au monde adimensionnel, c'est-à-dire sans dimension. En particulier, sans la dimension temps aussi. Le temps étant une dimension parfaitement neutre comme les autres.
Oui. C'est très puissant en fait comme idée.
Ça permet d'ouvrir des portes.
Ça permet d'ouvrir des portes. Donc on a vu un petit peu l'idée humide sur le tiers exclu, sur le principe du tiers exclu, sur la tétravalence. Il y a d'autres choses très intéressantes dans les lettres humides. C'est par exemple, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est la possibilité de voyage entre deux étoiles dans des temps beaucoup plus courts. J'ai donné tout à l'heure l'image du métro, mais en fait, il nous explique que l'univers est en fait un multi-univers.
Tout à fait, oui, bien sûr. Hein. C'est eux-mêmes l'appellent le multicosmos. C'est-à-dire qu'ils décrivent l'univers comme étant fait d'une infinité de paires d'univers, chaque paire étant un univers et son anti-univers. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot d'anti-univers. C'est un univers que je préfère dire conjugué. En mathématiques, c'est un terme plus propre, mais plus adapté, je veux dire. Hein. Mais anti-univers parle plus à tout le monde. Alors on le dit, mais je préfère dire personnellement conjugué. Jumeau est aussi discutable parce qu'il n'a rien strictement de copie. Il est au mieux énantiomorphe, comme on dit entre scientifiques. Mais en fait, tout est à l'envers entre guillemets dans ce. à l'envers en complémentarité d'une autre. Alors, les paires d'univers, c'est une conception tout à fait novatrice. Elle a été un petit peu esquissée par Sakharov, et c'est ce qui a d'ailleurs étonné Jean-Pierre Petit quand il avait trouvé dans les documents de quoi construire quelque chose autour de l'anti-univers. Sakharov avait lui-même déjà soulevé le problème en disant « mais certains phénomènes devraient nécessiter l'existence d'un anti-univers ou d'un univers énantiomorphe dans lequel on trouverait le symétrique de la matière qui serait l'antimatière et des choses comme ça, sans aller tout à fait jusqu'au bout. Maintenant, on est arrivé aussi à l'idée qu'il y a une espèce, on va dire, d'anti-temps ou de temps qui se déroule à l'envers. C'est une très très grande percée qu'a faite Jean-Pierre Petit, c'est qu'en fait, et ça personne ne le dit parce que ses travaux sont ignorés par le monde scientifique traditionnel, il a fait une percée extraordinaire parce qu'en fait, il a fait rentrer l'anti-univers dans l'équation d'Einstein, l'équation tensorielle d'Einstein. Il a réécrit Einstein en y intégrant l'anti-univers. Et c'est vrai qu'avec ça, ça ouvre effectivement une quantité de choses, mais en niveau de la gravitation en particulier, cet anti-univers peut exister clairement dans le système de la gravité de la façon dont Jean-Pierre Petit l'a traité et l'a publié. Ça lui permet en particulier, dans un livre d'ailleurs qui est « On a perdu la moitié de l'univers », de montrer en quoi la réalité de la masse manquante, parce qu'il y a un problème là, hein, comme elle est manquante, pour dire qu'elle est réelle, c'est pas facile. Vous voyez nos langues un petit peu comment ça se passe, hein. C'est pas simple d'expliquer des choses, des concepts qui font appel à des idées hors de nos normes. Donc pour montrer la réalité de cette masse manquante, c'est en fait une masse qui se trouve dans l'anti-univers, mais qui a des effets gravitationnels sur le nôtre d'univers et qui provoque, je vais dire, la mise en forme des galaxies et qui justifie leur rotation et leur formation. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait là-dessus. Donc la masse manquante, d'après la théorie de Jean-Pierre Petit, ben c'est clair, c'est la masse des anti-galaxies, c'est-à-dire de la pression anti-univers autour de chaque galaxie. Et ça, c'est des choses qui sont compréhensibles à travers certains textes de diffusion quand même très très restreinte. Hein. Alors, dans cet anti-univers, les Humites nous expliquent que chaque paire d'univers est caractérisée par sa vitesse de la lumière propre. Donc, finalement, si on arrive à changer d'univers, de paire d'univers, si on arrive à passer dans une autre paire d'univers, on va bénéficier d'une vitesse de la lumière plus élevée. Comme cette vitesse est de toute façon, et les Humites sont d'accord avec nous là-dessus, nous donne pas tort en tous les cas, cette vitesse est inaccessible, enfin je veux dire, d'abord inaccessible et en plus ne peut pas être dépassée. La seule façon de voyager plus vite que notre vitesse de la lumière actuelle, c'est d'aller dans un monde où la vitesse de la lumière est 10 fois plus élevée que la nôtre. À ce moment-là, en naviguant à 10% de la vitesse de la lumière, on se retrouvera avec la nôtre. Alors, comme les échelles de vitesse sont bien au-delà de ce type, ils expliquent que il suffit de savoir changer d'univers. Alors, on peut aller même plus loin, parce que on sait qu'avec la relativité, les travaux d'Einstein, ce qu'il a démontré, c'est que finalement, les quatre dimensions temps et espace sont toutes interagissantes et que ce qu'on peut gagner en temps, on va le perdre en distance ou l'inverse. Et donc finalement, en choisissant bien son univers, on va pouvoir bénéficier à la fois de la dilatation de la vitesse de la lumière et d'autre part de la contraction corrélative des distances. Et donc pouvoir se retrouver avec une distance plus courte à parcourir avec une vitesse très nettement plus élevée. Et donc on va gagner sur les deux tableaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à des temps de voyage qui sont impensables. Hein. 6 mois là où la lumière met 14 ans, c'est impensable avec nos concepts actuels.
Oui, ils disent même dans une des lettres que s'ils avaient pu voyager à une certaine époque, ils auraient mis 2 mois, 6 semaines.
Oui.
Alors, ils nous parlent aussi des plissements de l'univers. Hein. Que l'univers, en fait, d'une certaine manière, moi c'est comme ça que je l'ai compris, peut-être je le vois mal, mais que l'univers, d'une certaine manière, respire, se plie, se déplie. Est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation, cette image un petit peu poétique?
Oui, oui et non. Alors oui, c'est le côté poétique, mais je suis pas fait comme ça, moi. Hein, c'est tout. mais non, c'est beaucoup plus. Mais sur le fond, oui, c'est une bonne image. Simplement, cette respiration, c'est une respiration, on pourrait dire, comme une espèce de grande marmite avec des bulles à gauche et à droite. Ça ne respire pas partout en même temps, avec le même volume Bien et sûr. La même puissance. Mais c'est un petit peu ça. Et c'est un équilibre. C'est pour ça que leur mot pour décrire l'univers, c'est WAM. Ça veut dire que ce sont des variations qui sont en relation et en équilibre permanent. C'est-à-dire que ce qui monte d'un côté baisse de l'autre, et vice-versa, avec des échanges d'énergie. Et ces échanges d'énergie se faisant aussi par les anti-univers. Et d'où l'action des anti-univers sur les univers eux-mêmes. Et c'est ce que Jean-Pierre Petit a mis en équation. Parce que finalement, quand il dit que c'est notre anti-univers qui conditionne la dimension de nos galaxies, c'est bel et bien l'implication de notre univers jumeau ou conjugué sur le nôtre. Et ces implications que les humites ont tout le temps soulignées, eh bien, c'est des variations qui impliquent ces fameuses vagues et ces fameux plissements auxquels, dans le modèle mathématique, on est capable de déjà donner un petit peu de consistance.
Hein. Oui, alors ce que j'aime beaucoup, moi, dans les lettres mythes aussi, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils savent tout. Notamment, par exemple, en ce qui concerne ces plissements ou ces vagues dans l'univers, ils disent « nous sommes capables de les constater, mais nous ne sommes pas capables de les prévoir ». C'est un peu comme des météorologues qui diraient « bon, aujourd'hui, il a plu ». Mais on peut pas vous dire si demain il va pleuvoir. Mmh. Et ils reconnaissent leurs limites scientifiques, notamment à ce niveau, mais ils en reconnaissent d'autres aussi dans les lettres.
Oui, tout à fait. Simplement, c'est que cette limite-là, on la comprend déjà nous-mêmes, c'est une limite un peu structurelle. À partir du moment où il n'y a pas de communication autre que effet gravitationnel entre les univers, on est capable de recevoir des effets gravitationnels. On est capable d'en envoyer vers les autres, mais on n'est pas capable de prévoir les effets gravitationnels puisqu'on n'a pas de modèle. Enfin, ils ont un modèle quand même, mais pas un modèle descriptif de tous les comportements. Et c'est pour ça qu'ils disent, effectivement, ils savent de temps en temps un peu prévoir, mais mal. En disant, c'est pas très fin. Bien qu'à mon avis, bon, ils insistent pas trop là-dessus, doivent pas être trop mauvais, parce qu'il y a des moments où ils disent, on n'a pas entrepris le voyage parce qu'on sentait qu'on pourrait pas le faire dans de bonnes conditions.
Jusqu'à la fin, oui, c'est
mais
ça.
Mais en revanche.
Ou alors, il faudrait qu'on s'en aille maintenant parce que, quelques temps, ça va se dégrader.
C'est ce qui est arrivé sur Terre, finalement. C'est ce qu'ils racontent en disant, le corps expéditionnaire, une fois déposé au sol, le patron de l'expédition a dit « Les gars, on rentre tout de suite parce qu'on n'est pas sûr que le temps va bien se passer. Hein. » Ouais. Et voilà, hein, mais c'est sûr. Bon, c'est clair, ils n'ont pas la science infuse. Ils disent simplement que bon, ils en connaissent un bon paquet de plus que nous. Et bon, ils nous disent gentiment aussi qu'il est probable qu'on ne regarde pas tout à fait où il faut et avec les bonnes lunettes.
Oui, alors, ils nous disent aussi tout au long de ces lettres que notre avance, notre évolution technologique, notre évolution scientifique a largement dépassé notre évolution, on pourrait appeler spirituelle. Chez eux, la religion est extrêmement liée avec la science. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que sur Terre, je pense que tu es d'accord d'ailleurs, que sur Terre, la science a trop d'avance par rapport à la spiritualité qui nous manque. C'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu des enfants avec des bâtons de dynamite dans les mains et une boîte d'allumettes, et on risque à un moment ou à un autre, sans le faire exprès, de mettre le feu à la mèche.
Alors, bon, c'est vrai. Maintenant, il y a un petit peu des raisons historiques à tout ça. La première, c'est que la science et l'état d'esprit que nous avons hérité du siècle des Lumières est un état d'esprit qui a fait la séparation totale entre le spirituel sous la pression naturellement, la pression des églises et dans les pays développés essentiellement de l'église catholique et de l'église réformée d'ailleurs, la pression de séparation du spirituel qui était le domaine des religieux et la séparation donc des expériences de physique. Et de ce moment-là, nous avons hérité de cette non-implication et non-imbrication. Ce qui fait que malheureusement, aujourd'hui, vous prenez un modèle d'univers, Einstein, il est beau son modèle, mais où est le bonhomme là-dedans? Où est l'esprit humain là-dedans? Il est en dehors, c'est lui qui pense une réalité physique. Il n'est pas impliqué, et pourtant il est un élément constitutif de l'univers, et on va dire majeur. Majeur parce qu'il est le seul, a priori, à s'en faire une idée, à s'en faire un modèle de l'univers autour de lui. Et donc, il est certain qu'il y a eu un décalage de fabriquer. Alors en plus, les humites nous disent, et là, bon, c'est un peu plus politique, mais les humites nous disent que notre système de valeurs, avec un système d'argent, c'est-à-dire que tout s'achète et tout se vend, fait que pour gagner de l'argent, faut vendre ce qui est nouveau, donc de la technologie, donc de l'innovation. Et c'est un phénomène auto-accélérant de séparation de la technologie du spirituel, parce que le spirituel, ça ne se vend pas, encore que de temps en temps, peut-être un peu, mais le spirituel, ça ne se vend pas, et ça ne rapporte pas, surtout, pas du tout à l'échelle de la technologie, et encore moins dans l'esprit des militaires, bien sûr. Donc, mais ça, c'est déjà des considérations un petit peu plus politiques de...
Oui, ils nous disent d'ailleurs qu'on est dirigé par des fous furieux.
Oui, absolument, hein, absolument.
Quand ils font la critique de la société terrienne, c'est pas notre avantage.
Non, alors là, oui. Mais bon, je crois que c'est fait exprès pour nous faire réfléchir, comme tous ces documents d'ailleurs, hein, qui sont faits vraiment pour nous amener un petit peu à nous poser des questions. Et je pense qu'à terme, ça ne peut être que profitable. Alors, replacer, grâce à ces documents, on peut déjà commencer à réfléchir un petit peu sur la place de l'homme, de son esprit, dans l'ensemble du système. Et en fait, tout le système n'existe que parce que l'homme a une tête et une conscience. Et à partir de là, quand on a pris le recul nécessaire, on est capable de replacer la conscience de l'homme dans le modèle complet. Et ça, c'est un gros acquis de ces lettres, parce que un acquis, on va dire, métaphysique, hein, en plus du fait qu'il présente l'existence d'une conscience planétaire. Mais c'est vraiment une ouverture vers une autre façon de penser l'homme dans son environnement, c'est-à-dire dans l'univers et dans son monde, le monde de sa planète. Bon, ça pose des tas d'autres problèmes, hein, n'est-ce pas ?
Absolument. Alors, en fait, toutes ces lettres sont un immense réservoir d'idées et de réflexions. Je vais donner mon sentiment. Après 5 ou 6 ans de lecture de ces lettres, j'estimais la probabilité de leur origine à 90%. Les 10%, le pas supplémentaire des 10% a été passé à partir du moment où j'ai lu le livre de Jean-Paul Lyon. Donc, il est difficile à l'heure actuelle, pour quelqu'un qui a lu toutes les lettres avec attention, pour quelqu'un qui a lu le livre avec attention, qui a compris cette idée de son sept, de refuser l'origine. Mais ceci dit, on peut très bien avoir sa propre idée sur l'origine des lettres, tout en essayant d'en extraire la substantifique moelle, c'est-à-dire les données d'informations scientifiques qui en font partie. Pour ça, il faut bien sûr une certaine pluridisciplinarité. Et pour ceci, nous avons lancé une liste de réflexions et de travail qui essaye d'analyser au plus près du texte, avec justement la traduction des mots sous forme de son sept, et la traduction que nous a fait Jean-Paul Lyon des 1300 mots, et qu'on trouve sur le CD-ROM qui est qui peut être éventuellement commandé avec le livre. Cette liste de réflexions essaye de réunir des scientifiques, des chercheurs de différentes spécialités.
Oui, oui, tout à fait. Bon, l'idée, c'est que simplement, je crois, hein, pour arriver à échanger un petit peu sur les contenus, bon, surtout a priori scientifiques, mais aussi métaphysiques, pourquoi pas, des documents, il faut simplement ne pas les rejeter a priori. Maintenant, chacun se fait clairement son idée sur l'origine supputée ou pas. L'intérêt, essentiellement, c'est de confronter les opinions et surtout la connaissance des textes que les uns et les autres ont, parce que l'information, par exemple, sur la structure électronique ou sur la structure des noyaux, cette information est disséminée dans un certain nombre de documents. Et donc, il faut pouvoir rapprocher un petit peu tous les contenus pour en discuter. Et on va dire 50 cerveaux face à 1300 pages, c'est toujours mieux qu'un seul cerveau dans son coin, parce qu'il avance très lentement et beaucoup moins vite, et en plus il ne connaît pas autant que 50 cerveaux ensemble. Et c'est vrai que bon, on peut dire qu'on est quand même très heureux d'avoir déjà un certain nombre de d'esprits scientifiques qui ont manifesté de l'intérêt et qui le manifestent très positivement, de l'intérêt, mais même les autres, hein, je veux dire tous les gens sur la liste sont bon, c'est bien, hein, et les échanges sont très intéressants.
Les échanges sont assez intéressants, voilà, absolument. Alors, cette liste, quand même, on va vous en parler un tout petit peu. Nous avons quand même décidé qu'il y a une charte. Les gens qui participent à cette liste acceptent une règle qui est celle de ne pas discuter de l'origine des lettres, parce que nous avons vu que discuter de cette de l'origine de ces lettres est un débat sans fin. Il y a toujours, on peut toujours trouver quelque part quelqu'un qui a dit que. Alors il y a eu l'hypothèse, on avait parlé tout à l'heure. Il y a eu l'hypothèse du KGB. Il y a eu l'hypothèse de. Il y a d'ailleurs une lettre limite assez extraordinaire qui fait la liste de toutes les hypothèses. Alors ça va de l'Opus Dei, ça va du gouvernement canadien, ça va.
Oui, oui, y compris des sectes, des sous-sectes, etc.
Voilà, c'est ça. Alors,
un peu tout.
On peut trouver toutes les origines. Donc l'idée, c'est qu'il y a une charte qui fait que on ne discute pas de l'origine des lettres. Par contre, on discute de tout ce qu'il y a dans les lettres et d'une manière tout à fait ouverte. Alors, je vais donner l'adresse. C'est http://humo.free.fr/liste.htm. Donc là, vous tombez sur la charte et éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez participer à la discussion.
Bon, et déjà, les discussions, bon, il y a un certain nombre de messages tous les jours qui sont d'une densité de temps en temps très très intéressante.
Et on va parler et après d'une de nos idées sur cette liste.
Oui.
Bon, on va vous accorder 90 secondes. Allez, 1 minute 30. À tout de suite. Ici et maintenant, 95.2, André-Jacques Colbeck, toujours en forme.
Oui, ça va.
Alors, quelques points à préciser. Alors, la liste,
alors, donc, on a...
free, le site internet, etc.
Voilà, alors je reprécise l'adresse, c'est http://humo.free.fr/liste.htm. Donc, nous avons parlé de la charte, de la liste, du pourquoi de cette charte. Jean, en étant complètement participant à cette liste, quels sont les premiers constats sur cette liste ?
Bon, ben d'abord le niveau d'un certain nombre d'interventions, et puis déjà un petit peu de production, par exemple sur les différences physiologiques répertoriées entre les humites et nous, les terriens. Il y a quand même eu bon la mise en place de groupes d'analyse. Donc en fait, ce sont des sortes de groupes, on va dire, de travail, mais enfin surtout d'analyse des documents pour rassembler les informations sur un même thème et les rendre en contradiction ou en opposition avec nos connaissances d'aujourd'hui, pour mettre en évidence les différences et puis éventuellement les traiter ou en discuter. Et donc il y a déjà eu des résultats, un groupe d'analyse sur les écarts physiologiques entre les personnes. Tout ça est consultable, bien sûr, sur le site en question.
Absolument. Il faut d'abord signaler quand même que cette liste n'a que 2 mois et demi d'existence. Elle a été créée le 12 août, si je me souviens bien.
Oui. Oui, c'est ça. Et donc, pour l'instant, se mettent en même temps d'autres en place d'autres réflexions, en particulier une réflexion sur la recherche d'autres documents, parce que nous avons actuellement en connaissance grossièrement un tiers des documents originaux déclarés mis en circulation par les Humites pendant la période où ils ont écrit. Et donc, il faut essayer d'obtenir des copies de ces autres documents parce que les informations sont traitées avec des numéros de paragraphes et dans chaque document, le même numéro de paragraphe correspond au même centre d'idées. Et quand on aura réuni beaucoup plus de documents, je crois qu'on aura une information bien meilleure et bon, beaucoup plus représentative, c'est sûr.
Les Humites le disent d'ailleurs dans une de leurs lettres. Ils disent que si on pouvait réunir les documents qu'ils ont disséminés, nous aurions beaucoup plus d'informations. C'est dit en toutes lettres.
Oui, et j'y vois personnellement une idée intéressante des Humites, c'est que pour arriver à retrouver ces documents et à les échanger, compte tenu des brides qu'ils ont mis à la diffusion, ça veut dire qu'il va falloir se mettre d'accord au-delà de quantité de clivage, c'est-à-dire qu'il va falloir faire taire des esprits de groupes, de sous-groupes ou de chapelles. Et donc nous avons pensé sur la liste, on va mettre en place un appel à documents au niveau mondial par internet et en plusieurs langues, et actuellement on réfléchit à la façon de rédiger ce document. Bien sûr, en même temps on réfléchit à la façon de détecter, et là je pourrais pas donner plus d'informations à l'antenne, de détecter en quoi des documents ne sont pas comparables à des documents originaux, hein, puisqu'il faut pouvoir trier le bon grain d'une éventuelle ivraie.
Absolument. Alors, il y a aussi d'autres choses intéressantes que nous avons engagées sur cette liste. Je crois qu'il faudrait d'abord rappeler quelle est l'information humide que nous avons au niveau biologique concernant des atomes de krypton qui sont à chaque extrémité des chaînes ADN.
Oui, bon, alors le document, il y a plusieurs documents qui précisent la présence de cet atome, de ces atomes de krypton. C'est très étonnant parce que, bien sûr, ça sort un petit peu de nos connaissances biologiques et chimiques d'ailleurs en même temps, parce que le krypton est un gaz rare et, par définition, ne réagit que quand il est violé, mais avec vraiment beaucoup de force. Mais on arrive à le faire réagir. Et là, dans un domaine biologique, il est clair qu'il n'y a pas violence au niveau chimique. Au contraire, c'est tout en douceur. Alors, les Humites nous annoncent que la chaîne d'ADN dispose, d'après eux, de grappes d'atomes de krypton aux deux bouts, et que ces atomes de krypton servent à mettre en communication la fonction biologique vivante avec l'esprit planétaire, et qui est propre à chaque planète. Mais ils nous annoncent en même temps qu'ils ont vérifié que nous-mêmes sommes équipés de krypton, enfin je veux dire sur la Terre, tous les êtres vivants sont équipés de krypton au même titre que les Humites, et que ce krypton répond dans son fonctionnement. Alors bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais le fonctionnement pendant la vie de l'ADN, ce krypton change d'état et devient ce qu'on appelle aquantique, c'est-à-dire que les électrons qui l'entourent n'ont plus de discontinuité dans l'échelle des énergies qui les différencie, mais ça devient tout à fait continu, dans une vision probablement différente de la nôtre, mais c'est comme ça qu'il l'explique. Donc ce krypton, bien, il existe auprès de l'ADN et on peut imaginer de le rechercher, c'est-à-dire de le mettre en évidence et d'essayer de mettre en évidence qu'il existe, parce qu'aujourd'hui aucune théorie terrienne ne fait naturellement mention de krypton, d'une part autour de l'ADN et d'autre part dans les cellules, puisqu'il en faut pour nourrir la croissance des cellules. Pour l'instant, nous réfléchissons à une façon de tenter la mise en évidence de ce krypton en ayant construit toute une manipulation. Mais on va bientôt rentrer en phase de calcul budgétaire pour voir un petit peu où ça nous emmène. Mais l'idée est pas loin d'être finalisée au niveau technologique.
Donc il s'agit d'une recherche privée, en fait, d'initiative privée, avec des fonds privés.
Tout à fait, d'initiative
privée. Oui, complètement, complètement, parce que je crois que là, à ce niveau-là, de toute façon, on aurait un dossier en béton qu'on trouverait de toute façon aucun organisme public capable de se mouiller dans une affaire pareille. Je vais essayer d'obtenir la collaboration d'une société privée. Mais bon, on va pas en dire plus, enfin au moins trop dans le détail là-dessus. Mais bon, la manip paraît jouable. Elle paraît jouable. Maintenant, il faut tout de même s'assurer, pour que les résultats de cette manipulation puissent être exploités, positifs ou négatifs, peu importe, mais puissent être exploités, il faut absolument se garantir de toute imperfection conceptuelle, et c'est l'objet de la réflexion actuelle, c'est-à-dire que la manip soit, on va dire, sans faille dans son principe, et ensuite, bien sûr, bon, on espère que le résultat sera positif si on la lance.
Bien sûr, les expérimentations ne sont que des prolongements logiques d'une réflexion collective.
Absolument, absolument. De toute façon, c'est l'aboutissement. D'ailleurs, c'est la démarche scientifique de tous les chercheurs, quelle que soit leur opinion. En général, pourquoi on fait des manips ? C'est pour vérifier une théorie. C'est-à-dire que, à la suite de certains observables, on a construit un raisonnement en disant, mais si les choses sont comme ça, on doit pouvoir constater tel ou tel phénomène dans telle et telle condition. Et à ce moment-là, on essaye de construire la manip pour le vérifier ou au contraire ne pas le vérifier. L'essentiel, c'est d'avancer dans la connaissance.
Hein. Voilà, donc s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, et même des non-scientifiques, parce que la réflexion collective peut être aussi une simple réflexion de bon sens, qui n'est pas obligatoirement une réflexion de spécialiste, vous êtes invité à participer, mais je précise bien, c'est une participation sans a priori, qui n'impose pas une conviction préalable, bien au contraire.
Non, absolument, parce que, je veux dire, face au même document, on peut avoir des sensibilités différentes, et la sensibilité, elle est à chacun. Alors, la guerre des sensibilités n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en revanche, chacun garde sa propre autonomie, il n'est pas question d'imposer un point de vue à l'un ou à l'autre, la participation est libre dans ce cadre, hein, voilà.
Bien, je voudrais juste souligner en ce qui concerne l'éventuel résultat d'expérience, c'est que les conclusions appartiennent à chacun, mais l'investigation est toujours plus efficace en commun et l'investigation est dans ce cas-là commune.
Absolument. Alors, un point aussi important, c'est que toute cette investigation, l'idée est que il n'y a pas de propriété de l'information. Tout ce qui est discuté sur la liste est, on va dire propriété, peu importe, mais le patrimoine, oui. Le patrimoine de la liste, et que si des contributions spéciales pointues de l'un ou de l'autre sont reconnues remarquables, il n'y a aucune raison qu'on occulte leur nom. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un groupe d'analyse qui a travaillé sur tel ou tel sujet, eh bien, il était constitué de un tel et un tel qui ont apporté leur contribution.
Je mets un petit bémol à tout ça, c'est que nous avons certains scientifiques qui sont déjà sur la liste et qui ont pris des pseudos, et leur anonymat est complètement respecté, et d'ailleurs, à la limite, nous ne sommes pas obligés de connaître leur vrai nom. Il faut faire très attention, et je comprends très bien que des gens veuillent rester... disons anonyme.
Bon, je ne me cache pas. Hein.
Jean Pollion.
Je suis le premier à avoir procédé de la sorte, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on puisse rattacher éventuellement un travail exceptionnel à l'un ou à l'autre sous son pseudo. Ça n'a pas d'importance.
Absolument.
C'est en fait finalement c'est une étiquette de l'individu, une étiquette qu'il s'est choisie, et donc pas de problème sur ce domaine-là.
Voilà.
Peut-être que je vais profiter juste pour faire une petite annonce. D'abord, bon, mon livre est disponible chez Aldan et peut être commandé bien sûr chez Aldan à édition. Worldline. Attends, je me rappelle plus. Bon, en attendant, je vais vous donner une autre information.
Voilà.
L'adresse email pour commander éventuellement. Voilà, c'est édition Aldan, édition au pluriel, édition Aldan @worldonline.ch. worldonline.ch.
Et puis l'adresse postale.
Oui,
peut-être.
Oui, l'adresse postale. Mais en fait, par les cette adresse email, en fait, on a l'adresse postale qui est accessible. D'accord. Alors, une autre petite chose. Exceptionnellement, il se trouve que la semaine prochaine, je serai à Paris mardi soir au repas ufologique qui ont lieu une fois par mois. Au repas ufologique au restaurant Mélodine, et là j'aurai des livres à dédicacer, des livres donc qui pourront être acquis sur place avec dédicace sur place. J'en aurai pas beaucoup, hein, une petite dizaine, mais donc j'aurai des livres disponibles si vous voulez venir au restaurant. Enfin, c'est un self-service, hein, Mélodine, ça s'écrit M-E-L-O-D-I-N-E, 21 rue de Beaubourg, 75003, Paris. Les réunions commencent à 19h. Et donc, j'y serai avec quelques livres pour ceux que ça peut intéresser. Parce que, c'est vrai que, commander en Suisse, c'est pas toujours facile. Mais là, c'est en pleine collaboration avec mon éditeur, bien sûr. Hein.
Vous pouvez commencer par le mien, avec votre vrai nom, s'il vous plaît, sur la page.
Oui.
Merci beaucoup. Donc, au restaurant Mélodine, mardi 5 à 19h. Voilà. C'est au pied du centre Pompidou.